too good. I'm too good for my own good. Yeah, yeah. I'll be there. I'll be there in a minute. Even though it took an hour for you to even answer. I'm losing all my power, but who's keeping score?
Pas mal, hein? Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Un seul stream hier, j'ai été raisonnable, surtout j'ai passé l'après-midi dans la paperasse. 9h39 en ce jeudi 14 août 2025. Je me concentre toujours sur les voix et les jours, tout ça. Les voix, les jours. Non, pas les voix, les dates. Les dates. Les dates et les jours. Et les années aussi. Souvent, j'ai du mal avec les années aussi. Je ne sais jamais vraiment en quelle année on est. J'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour la dernière revue de presse de la semaine. parce que je pars retrouver les enfants qui sont en vacances chez leur grand-mère, leur grand-maman, depuis quelques jours. Et je les retrouve cet après-midi. On va en Franche-Comté. Et je reviens dimanche, fin de journée, pour faire un petit stream de gaming quand même dimanche soir, histoire qu'on ne soit privé de stream que finalement vendredi et samedi. Voilà. Mais alors que depuis le début de l'été, depuis le début juillet, on tient ce rythme de revue de presse du lundi au vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, sans exception. Bon là, une petite exception, justement, mais pour la bonne cause. Familial, voilà. Et donc je vous retrouve après je vous retrouve dimanche soir. Hier après-midi, après-midi paperasse, comme on aime. Et qui s'est un peu éternisé, qui a commencé en début d'après-midi, qui s'est terminé à 23h. Salut Iris, merci pour ton 15e mois. J'espère que tes vacances sont bien passées. Merci Hey Fergy pour ce 29e mois. Je t'ai vu tout à l'heure. Merci mon ami Sugar pour le 20e mois d'abonnement. Merci de ton soutien, de ton accompagnement. Est-ce que tu fais le The Event, me dit Joris Graham. Oh que oui mon Joris. Attendez, j'ai lancé le stream sur Twitch. Est-ce que vous m'autorisez Franche-Comté, le berceau de Frodon Sacquet? Hein? What? Hein? Quoi? Le comté. Ah! Attends, il y a une histoire avec Shire. Le comté, oui, non, mais c'est pas, je crois que c'est pas le même. On est d'accord. Hein. Est-ce que tu t'es couché tôt au moins? Ouais, je me suis couché vers minuit, mais je me suis pas endormi avant 22h, Camille. Est-ce que vous m'autorisez à lancer le live également sur TikTok? J'ai lancé, comme d'habitude, d'abord sur Twitch. Mais on partage ces revues de presse depuis quelques jours également avec nos amis TikTok pour toucher notre public. Est-ce que vous êtes OK? Noctali me dit oui, plus on est nombreux, plus on rit. Noctali, je ne t'oublie pas d'ailleurs. Oui, évidemment, oui. Oui, go. OK, ça va être mieux. OK, c'est parti. Démarrer live. Double live. Oui, amène les jeunes. Vous êtes jeunes, vous aussi. Allez, c'est parti. Il est où le chat? On va se mettre le chat ici. Double live, double chat. Ami de TikTok, bonjour. On vient de lancer le mec qui répète sans arrêt les mêmes trucs. On vient de lancer le live sur Twitch. Je le lance également sur TikTok. La revue de presse, la matinée Étienne. On lit les journaux ensemble chaque matin. On s'actualise. C'est français, ça? Je suis pas sûr, ça. Bref, on s'intéresse à l'actualité. Et puis surtout, on en parle ensemble. Voilà. De tout ça. Bienvenue également. Oui, c'est ça, la comté, c'est la région de Frodon, le Seigneur des Anneaux. Voilà, d'où Franche-Comté, c'était la blague, j'ai compris. C'était bien ça. Oui, quelqu'un me demandait dans le chat un instant si je faisais le The Event cette année. Oh que oui. Oh que oui. Et très heureux. Merci Zera. Merci Zera à toutes ces équipes pour cette invitation pour la deuxième année consécutive, même si j'ai participé auparavant à d'autres The Event en tant qu'invité, mais c'est la deuxième fois consécutive en tant que streamer. Le chat et c'est mystère. Voilà. Comment expliquer que la forêt 007, qui à mon avis n'a rien d'un espion de haut vol, puisse écrire dans notre chat, ça y est, tu t'es fait virer de TF1. Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on lui dit? Je crois qu'on lui dit rien. Oui, donc deuxième The Event en tant que participant. Ouais, on se régale. Ouais. Je pense que ça n'est... Tout le monde n'a pas tout allumé ce matin pour dire les choses gentiment. Et donc oui, deuxième The Event, on a bossé déjà ensemble sur des donation goals lors d'un stream. Il faut qu'on peaufine tout ça, il faut qu'on les mette en ordre, qu'on choisisse l'ordre, qu'on mette également des niveaux de donation goals en face, voilà. Ça, on le fera en début de semaine. Et puis après, on fera un petit visuel pour balancer ça sur les réseaux. Alors, ne dites rien à la forêt qui persiste et signe, parce que la forêt n'a pas pris son café et il a beaucoup de mal. Ou elle, d'ailleurs. Oui, tu as été viré, tu essaies de te donner une visibilité sur TikTok. Ne lui répondez pas, s'il vous plaît. Parfois, ça ne sert à rien. Ne rentrez pas dans cette discussion. Je pense que c'est un problème d'allumage. Ça arrive. Voilà. Il y a des matins qui sont plus durs que d'autres. Voilà. Ne lui répondez pas. Je pense que c'est un problème qui nous dépasse. Voilà. Peut-être une fin de soirée trop tardive. Mais peut-être qu'à un moment, cette personne va aller sur Google et va se rendre compte que rien ne va dans sa phrase. Voilà. Google, G-O-O-G-L-E. C'est sur Internet. C'est sur le web, le World Wide Web. Hein. N'hésite pas, tu seras surpris. Voilà. En tapant par exemple Samuel Etienne TF1. Je l'aide un petit peu parce que j'ai l'impression que c'est difficile. Donc le The Event, oui, on a 2-3 donation goals assez sympas. L'objectif, c'est ça qui est important, collecter le maximum de dons pour les associations. Voilà. Oui, crâne hurlant, ready pour le The Event. Enfin, ready. Peut-être que... Peut-être que il faudrait que je me mette à bosser dessus d'ailleurs, parce que on a bossé sur les donation goals qui ont l'air plutôt cool. Peut-être qu'il faudrait. J'ai quelques streamers, streameuses qui m'ont proposé des collabs aussi sur place. Voilà. Peut-être que moi j'en ai pas proposé aux amis. Peut-être qu'il faudrait que je taffe un peu là-dessus. Voilà. Comme ce week-end je vais pas streamer, peut-être que je pourrais réfléchir un petit peu à tout ça. Salut Elisa, bienvenue. Oui, il y aura un tatouage en live, ouais. Tu vas refaire les interviews pendant le The Event. Oh oui, oui. Ah ouais, il faut que je m'occupe de ça aussi. Ah ouais, ce serait bien, ouais. Comme l'an dernier, les interviews de toutes les assos. Ouais. Ah ouais, ouais. L'an dernier, on avait notamment donné la parole aux représentants de toutes les associations. Bon, là, il y a 8 assos, 4 et 4, hein, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Cette année, donc ça, ce serait bien, ouais. Ah! La forêt a retrouvé la bonne chaîne. Félicitations, tu approches la forêt, c'est bien. Toi, tu as pris un petit café, toi. Toi, tu as pris un petit café, c'est bien. Félicitations. Encore 2-3 recherches et tu vas t'approcher de l'actualité, c'est bien. Il a retrouvé le nom de l'émission. Bien joué. Qu'est-ce que tu vas faire ton week-end, mon Sam Dupont, notre ami Dupont de Ligonnès qu'on a retrouvé. Tout le monde le cherche, nous on sait où il est. Il est là dans le chat. Chill, vacances, famille, week-end. Sport, le dos a un peu souffert ces derniers jours, on va reprendre la course à pied. Je vais essayer de faire un petit run avant le train de cet après-midi. Voilà, on va emmener les chaussures pour courir, le short. Ça va le faire. Et puis les enfants, et puis la famille, et puis l'ordinateur pour bosser sur des trucs, quoi. Voilà. Nag écrit 12, en Nag 12 200, je crois qu'il ne regarde pas son chat TikTok. Non, c'est vrai. C'est vrai, Nag, je n'ai pas vu ton message. Merci, Nathalie Tchèque. Est-ce que tu projetterais un jour de faire une émission du style de Game One? Alors, Game One, non, hein, parce que c'est quand même assez ambitieux comme émission. C'est une super émission, en vrai. En revanche, tous les dimanches soirs à 20h sur ma chaîne Twitch depuis 2 ans, et on prépare la 3e saison, vous avez une émission qui s'appelle Sam Play. Sam Play, P-L-A-Y, jeu de mots incroyable. Où, à chaque dimanche soir à 20h, on va reprendre mi-septembre, je reçois un streamer, une streameuse, un créateur, une créatrice de contenu qui me parle de son jeu vidéo préféré, et on y joue bien sûr, et c'est top parce que du coup, ben, moi je peaufine un peu ma culture vidéoludique, comme disent les journaux. Donc voilà, c'est pas Game One, mais c'est plutôt sympa. Voilà. On est en train de travailler sur la 3e saison de cette émission, sachant qu'on a reçu déjà 60 invités, 2 fois 30, 30 par an à peu près, voilà. Et que lors d'un stream récent, on a essayé de trouver des nouvelles idées de nouveaux invités. Merci Ankila pour le 40e mois. Le 48e mois même. Et on devait en trouver 30, on en a trouvé 100. Donc, salut Dim. Donc, on a ce qu'il faut pour 3 saisons de plus. Voilà, bravo, bravo à la communauté. Rural Hermigo, est-ce que tu mettras sur YouTube? Tout est sur YouTube. Tu vas sur ma chaîne YouTube, tu as les 60 émissions. Ouais, tu as les 60 émissions depuis le début, donc littéralement 60 jeux que tu peux découvrir avec un invité qui aime ce jeu, quoi. Voilà. L'hebdo, Nac, c'est pas d'actualité le retour de l'hebdo Étienne, mais et pourtant faire une émission hebdomadaire par exemple avec des invités sur l'actualité, ça pourrait être sympa. Mais c'est compliqué. C'est compliqué pour plein de raisons. Programmation, gros travail de programmation. Modèle économique, compliqué de mettre un sponsor sur une émission d'actualité. Réaction des réseaux sociaux sur certains sujets. Voilà. Donc, voilà. Bon, mais j'y pense régulièrement. J'y pense régulièrement. Salut Maxime! Je vous laisse mon petit plaisir du matin. On fait une petite demi-heure d'intro, de bonjour, de comment ça va la famille. Alors je lis pas de musulmans et d'algériens dans tes émissions s'il te plaît. Ok, donc ça c'est Bandef bien sûr. Attends, d'abord je te signale. On peut signaler pour propos racistes. Alors discours haineux, ouais. Alors discours haineux, ouais, c'est bien ça. Ok, donc tu es signalé, voilà. Et tu es aussi ban bien sûr du chat. Haha. Et bloquer le compte, voilà. Ici c'est assez ouvert, on discute avec des gens de tous horizons, notamment des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Évidemment, tout propos raciste, antisémite, sexiste, homophobe, discriminant pour quelque partie de la population que ce soit est évidemment prié d'aller voir ailleurs si j'y suis. Donc ça dégage instant. Voilà. On est tolérant, mais évidemment pas avec l'intolérance. Bon, vous ça va quand même? Comment ça va vous? La vie, tout ça. Les vacances, le travail, la santé, les amis, les amours. Embrasse ta maman, chacun en vrai. Ça va, repos aujourd'hui, la cano demain. Joli. Je deviens dingue avec les actus, sinon ça va, t'inquiète, on est chill ici. Merci N59 pour le message. Merci Zébafil pour le 44e mois. Je vais en festival aujourd'hui. Lequel, Clarence? Je viens d'être appelé pour une transplantation, j'attends. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas être hospitalisé, Zinécou, et on va te transplanter un organe? C'est ça? C'est toi qui donnes? En tout cas, bon, ben, force dans cette aventure. En vacances, sympa de te voir ici, ça change un peu. Salut David. J'ai fait du karting, le siège était trop dur, du coup j'ai mal partout. Liam a mal au cul à cause du karting. Force Liam. Retourneras-tu un jour à Fort Boyard? Non, Lucas, je l'ai fait 5 fois, ça suffit. Tranquille, télétravail ce matin, salut Hortax. Success Network a écrit à peu près 7 ou 8 fois dans le chat de Villepin, président, t'en penses quoi? Rien. Personnellement, aujourd'hui, ce n'est pas une de mes priorités d'actu, même si je vois passer des articles de temps en temps, mais si un jour je trouve un article intéressant et pertinent sur ça, je t'en parlerai bien sûr. Mais j'ai vu quelques articles passer là-dessus, effectivement. Ouais. Mon chat s'est blessé, je suis un peu inquiet, mais ça va. Et toi? Force au chat, GMT. Pourquoi sur Question pour un champion, tu as des cheveux? Parce que en télé, il y a toujours un décalage de fou entre les émissions diffusées et enregistrées, littéralement, il y a plusieurs mois. Et l'été, je me mets un bon coup de tondeuse. Voilà. Mais, donc en revanche, les prochaines émissions qu'on enregistre dans une semaine, qui vont être diffusées à partir du mois de janvier, je crois, parce qu'on a un décalage de psychopathe, tu verras, j'aurai les cheveux courts. Et tu me diras, mais pourquoi t'as les cheveux courts au mois de janvier? Bah parce qu'on les a enregistrés fin août. Ne posez pas, ne vous demandez pas pourquoi, ça n'a aucun sens. Hâte d'être en week-end ce soir. Ah oui, c'est un. Donc demain c'est férié, donc c'est un pont, c'est ça? Du coup, le week-end commence pour beaucoup. C'est ça l'histoire? Humbert, Marie-Hélène, bonjour Samuel, j'aime beaucoup tes tatouages, dommage que tu les montres pas. Oui, ils sont pour moi, ils sont pour moi. Mais aussi, ah bah, tu les verras au The Event, l'événement caritatif. Salut écolo. Pourquoi? Parce que je pense qu'on va se rajouter un quatrième tatouage, un quatrième dragon en direct avec un tatoueur ou une tatoueuse de Montpellier pour amuser les gens et que les gens donnent un max de sous pour de formidables assos, quoi. Donc là, du coup, tu les verras. Et même j'y vais à la montagne, profite de la montagne. Salut du Québec. Salut des SQS. Je t'ai vu jouer à Call of Duty, c'était fou. On adore ce jeu. On adore ce jeu. On est en train de faire tous les modes d'histoire de tous les Call of Duty. Pas de pont? Parce qu'en fait, quel jour on est là? On est jeudi, donc demain c'est le 15 août, ça bosse pas, non? C'est pas un pont, ça, du coup? Du coup, non, on peut pas parler d'un pont. C'est pas un pont, du coup? Non, c'est pas vraiment un pont. Alors là, Chunky l'OVNI, un max de force, après un an de dépression en pleine remontada depuis 3 mois, à tout le monde, si ça va pas du tout, prenez le temps, c'est pas perdu. Merci pour ce message, Chunky l'OVNI. J'espère que tout va bien. Est-ce que tu vas accueillir Emilien dans Question pour un champion? Emilien a déjà joué il y a très longtemps quand il était encore plus jeune. Et effectivement, il a émis le souhait de revenir. On serait très heureux de le recevoir, cette espèce de goat. Un pont, c'est quand le jeudi est férié et qu'on saute le vendredi. Vous êtes d'accord avec ça? Un pont, c'est quand je. Ah, c'est ça le pont. De rien, Kéros. Hello Samuel, je t'ai rencontré il y a quelques temps. Tu étais super accessible. Merci pour la photo. J'espère que c'est pas une des photos que j'ai mis sur mon compte OnlyFans. Ah, un pont, c'est quand tu poses un jour entre 2 jours chômés. Ah, ok, d'accord, c'est pas un pont alors. Quand j'étais petit, je regardais la question pour un champion avec ma mère et maintenant je lui montre tes clips Valo. Merci Alex, j'espère que ta maman n'est pas trop choquée. Ah. D'accord, ok. Ok. Présenter Fort Boyard? Non plus, non plus. Salut A. C'est un très joli pseudo. Un pseudo très sobre, très court. Ah, merci pour ton message. Un pont, c'est surtout quand tu poses des jours pour avoir plusieurs jours avec le férié. D'accord, ok. Elle est abasourdie par ton gecko? C'est trop mignon! Romain X27, merci beaucoup pour ton cinquième mois. Merci. T'aimes pas mes lunettes? Oula, un joli message de Ayam Lana, c'est ma dernière journée d'apprentissage, donc c'est la fin de mon master, enfin libéré des études. J'espère que la vie active te révélera te réservera des belles surprises en vrai. Voilà, parce que c'est une autre aventure aussi. Ça peut être très sympa, comme parfois un peu compliqué, mais GG pour la fin de tes études. Bon courage Nel qui bosse tout le week-end, train pour le sud-ouest ce soir de la part du côté de Sugar, nous on part pour l'est, on part pour la Franche-Comté cet après-midi. Voilà, si vous voyez un mec si vous voyez un gars un peu musclé, un peu sexy, d'1,90 m, Gare de Lyon cet après-midi, le regard un peu mystérieux, ben ce sera pas moi. Hein. Clairement, c'est pas là, du tout la description, quoi. Salut Loïc. Ouh là là, il est dans la vraie vie, lui ou pas? Hein? Dédé Maverick, ton premier message sur cette chaîne est quand même très étrange. Ouh là, il est dans la vraie vie, lui ou pas? Ça a sûrement une signification, mais il faut que tu la précises. Merci Fizorem pour le 42e mois. Ewen, merci de me demander. Je vais très bien. J'espère que toi, tu vas bien aussi. Ah oui, c'est vrai, oui, t'as raison, Original Pumos a raison, le tatouage en live, ce sera si on atteint les 500K de dons sur ma cagnotte. On a fait 460 l'an dernier, hein. L'idée, c'est de motiver les dons, hein. C'est pour ça, hein. Merci Orvalvi pour le deuxième mois. Merci à toi. Ok, j'ai. Ah, Aldaren dit si, si, c'est un pont. Ouf, débat, débat. Salut, un clone sur TikTok. Bonjour à toi. Le Sam complètement défacé depuis qu'il s'est viré par TF1. Merci, Strominer. On a plus le fou du bus de tout à l'heure là qui disait que je m'étais fait virer de TF1. Je pense qu'il est dû élever. Il a dû partir vérifier ses informations et du coup, je pense qu'il a bugué. T'es plus là? Non, ce sera un petit tatouage, ce sera une pièce de. Je vais dire au tatoueur ou à la tatoueuse. Une petite pièce, on fera 3-4 heures, on va pas faire 8 heures. Hein. Hein? Voilà. Est-ce que je serai à la PGW cette année? Je sais pas encore. Paris Games Week, super rendez-vous. Je ne serai pas encore. C'est pas déterminé. Peut-être, ouais. Si on a un truc, on fera peut-être un petit live là-bas. Merci Juroscoff. Merci pour le 43e mois. Sofiane, qui lui a les bonnes infos. Merci Sofiane, ça fait plaisir en vérité que des gens soient un peu informés sur cette chaîne. Bonjour, c'est vrai, question pour un champion, ce sera hebdomadaire à l'entrée? Oui, bien sûr. Ça passe au samedi dimanche après 37 ans tous les jours. Décision incompréhensible que je ne comprends pas de la direction de France Télévisions, pas comprise non plus par les téléspectateurs. Je pense que à la rentrée de septembre, quand les téléspectateurs de Question pour un champion vont se rendre compte, Sofiane, que il n'y a plus Question pour un champion le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, cette émission qui rythmait le quotidien de quand même beaucoup de Français depuis 37 ans, je pense que les gens vont râler. Voilà. Et puis, comme moi, je n'ai rien contre les gens qui ont pris cette décision, mais que je pense malgré tout que c'est une mauvaise décision, je l'ai dit, je le dis et je le redirai. Voilà. Pas tellement pour moi, puisque l'essentiel de mon activité aujourd'hui, elle est plutôt sur les nouvelles plateformes, sur Twitch notamment. Pas tellement pour moi, mais pour le public de Question pour un champion. Hein, je rappelle que Question pour un champion, c'est. Dans sa case horaire, hein, son horaire, c'est la deuxième émission la plus regardée en France. Et le public est super important. Et je pense que ces gens vont être très très déçus, quoi. Du coup, tu perds tes cheveux. Bah oui, gigolo. Marrant ton message. Gigolo, rigolo. Pas mal. Bah oui, du coup, j'en perds mes cheveux. Enfin, surtout, je les coupe très court en ce moment. C'est l'été, c'est l'été. Bonjour. Ça fait combien de temps qu'on est en live là? 24 minutes, encore 4-5 minutes d'échange et on lance la revue de presse, ok? Combien tu fais au marathon? Dans ma jeunesse, j'ai claqué un petit 3h13 à Berlin. C'était il y a très longtemps et je ne cours plus du tout à cette vitesse. Je pense que je suis quasiment un peu incapable de courir en sprint aujourd'hui à la vitesse où je courais en marathon quand j'avais 30 ans, quoi. Voilà. Donc je cours plus du tout à cette vitesse-là. Salut, Midori! Je suis content de toi. Je suis toujours content de te voir, Midori. J'espère que tu vas bien. Midori, excellente streameuse, les amis. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Midori, Midauri. D'ailleurs, les amis, les modérateurs que je salue, n'hésitez pas à épingler la chaîne de Midori. Je salue les modos, Anonyme31, Moulbits, Pépin Camille, Sarah. Sarah, je te vois aujourd'hui. Sugar Frog, Original Pimousse, l'ami Nightbot, bien sûr, aussi. N'hésitez pas à épingler cette chaîne, amis viewers, et aller voir Midori, streameuse, notamment de Valo. Non, je suis plus sur France Info, Luc, j'ai quitté il y a 2 ans. Samuel, tu as un conseil pour se mettre au triathlon dans l'objectif d'un jour de faire un Ironman? Bah de faire du volume. L'Ironman, c'est pas un truc de. C'est pas tellement un truc de puissance et de rapidité. En tout cas, si tu veux terminer, sauf si tu veux battre le record du monde, mais c'est vraiment un truc d'endurance pure. Voilà. Et donc, voilà. En général, quand on part sur le triathlon et notamment sur l'iron, c'est que on a un des sports où on est un peu à l'aise. Hein, il y a beaucoup de gars forts, de gars et de filles d'ailleurs, forts en cyclisme qui viennent au triathlon et qui se mettent du coup à bosser la course à pied et la natation. Voilà, moi, je venais plutôt de la course à pied. Et j'ai dû bosser le comment le vélo qui était vraiment pas mon point fort et la natation. Voilà, donc après tu fais du volume. Je dirais du coup tu fais pas tellement de volume sur ton point fort parce que par exemple si tu es un peu à l'aise en course à pied, le côté marathon de l'Ironman n'est pas très compliqué. Hein, en plus tu termines par le il y a Tommy qui écrit on te regardait pas et on s'en fout de ta vie. Bon, on passe sur la conjugaison parce qu'on ne juge pas la conjugaison ici. Hein. Voilà. En revanche, Tommy, littéralement, tu dis que tu veux pas me regarder, mais tu me regardes. Voilà. Donc, je te souhaite une très très bonne journée quand même. Et donc, voilà, l'idée, c'est de pas bosser ton point fort. En plus, la course à pied, par exemple, tu finis par le marathon. Donc, psychologiquement, c'est easy. Tu sors du vélo, tu te dis, c'est bon, je reste sur mon point fort. En revanche, il faut que tu bosses tes points faibles. Et là, il faut faire du volume. Là, il faut faire du volume. Hein, il faut faire, y a pas de mystère. Hein. Des heures et des heures de vélo, des dizaines, des centaines de kilomètres de vélo, et des petites séances de natation de 2 heures, quoi. Voilà, quoi. Faut bosser le cardio, quoi. Ouais, mais c'est assez sympa. Meilleur souvenir à question pour un champion? Oh, chaque émission est un bon souvenir, en vrai. C'est un plaisir, cette émission. Hein. Juste terminé. C'est un défi personnel d'une vie de sport, on va dire. Merci pour les conseils, la bonne humeur et tout ton boulot. Merci beaucoup. Voilà. Et bon Ironman. Et dis-toi que c'est vraiment à la portée de n'importe qui. Hein. L'Ironman, c'est vraiment. T'es en bonne santé, t'aimes un peu le sport, let's go. Hein. C'est juste une question d'investissement personnel, quoi. Voilà. Faut avoir les 15-20 heures par semaine à consacrer au sport, quoi. Voilà. Donc, à une époque, j'avais ce temps, maintenant je ne l'ai plus. Tu as des projets stimulants pour remplacer question pour un champion? Oui, exactement, ce que je suis en train de faire là, depuis 5 ans. Voilà, ça c'est mon bonheur, c'est mon kiff. Salut Estelle. Et merci d'être aussi nombreux, ça fait plaisir, je n'avais pas vu. Salut MMG. Plaisir partagé. Bon, je pense que c'est l'heure, hein. Ok, 28 minutes, encore 1 minute 20 de blabla, de bonjour, et je vous fais le sommaire de l'actualité. Je sais, Michael, il n'y a pas que Valo en FPS. Je sais. Ouais, déjà 5 ans sur Twitch, quasiment, ouais. Trop de messages, je suis perdu, je vous lis. Est-ce qu'on peut dire que tu es devenu entrepreneur? Oui, par la force des choses, un créateur de contenu, il est forcément un petit peu entrepreneur, mais c'est la TPE, hein, c'est la très petite entreprise. Mais c'est marrant. C'est plutôt sympa. Après 30 ans de salariat, un peu d'indépendance, quoi. Miscou Maps, je vois que tu spams, donc je vais te répondre parce que je pense que c'est important pour toi. Pourquoi France Télé veut te virer? Mais France Télé veut pas me virer. C'est juste qu'ils ont pris cette décision pour des raisons budgétaires de quasiment supprimer Question pour un champion, ce qui est une mauvaise décision. Donc, mais on s'entend très très bien. Voilà. C'est plutôt moi qui ai pris un peu de distance avec France Télévisions. J'ai arrêté France Info il y a 2 ans. Je me suis investi de plus en plus sur Twitch, notamment. Donc c'est pas personnel. D'ailleurs, à ce niveau-là de taf, c'est pas personnel. C'est pas des histoires d'hommes et de femmes. C'est des arbitrages. Des décisions, il se trouve que là je suis pas d'accord et que j'ai une certaine indépendance de parole donc je le dis, mais tu vois c'est pas un truc je t'aime pas je te vire quoi, même s'ils doivent mo moyennement apprécier ce que je raconte de cette décision bien sûr. Mon fils de 3 ans regarde Question pour un champion. Alia bravo en vrai hein. C'est incroyable. Bon les amis on va y aller sur l'info hein. Ça vous va? Alors, pour ceux qui découvrent cette revue de presse, la matinée Étienne, c'est très simple. Tous les jours du lundi au vendredi, je lis les journaux le matin, la presse quotidienne nationale, voilà, je vais prendre ma tablette, donc vite fait, j'espère que j'oublie personne, mais Le Monde, Le Parisien, Libération, La Croix, L'Humanité, L'Opinion, Les Échos, L'Équipe, les quotidiens nationaux, je pourrais lire plein d'autres presses, mais... Le temps manque, la presse régionale, quotidienne, excellente, la presse magazine en France, excellente, la presse qui n'est que sur Internet, qui est parfois et souvent excellente, plein de choses. Mais il faut bien faire des choix. Point d'exclamation RDP dans le chat et j'explique pourquoi ces choix. Le Figaro, j'avais oublié le Figaro, merci Renitor de paix. Et donc j'ai choisi ces journaux parce que c'est ceux que moi je lis, voilà, et que je partage mon intérêt pour la presse écrite qui me semble être une des meilleures sources d'information pour plein de raisons. Et puis je choisis des actus, les actus qui me semblent parmi les plus importantes. Je choisis des articles que je trouve les plus intéressants et les mieux faits. Et puis après, on en parle ensemble. C'est le concept. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer par le sommaire. Simple. Il n'y a pas un milliard de trucs ce matin, mais il y a des choses intéressantes, et notamment ce sommet de demain aux États-Unis, en Alaska pour être précis, entre le président américain Donald Trump et Vladimir Poutine, le président russe, sur la guerre en Ukraine. C'est vraiment une des grosses. Exactement, Pablo Escarmouche, choisir c'est renoncer. Merci Léguane pour le deuxième mois. Merci Juroscoff pour le 43e mois. Merci Orvalvi. Merci Fizoret. Merci Romain. Ok, j'ai remercié personne. Ah Romain, je t'avais remercié. C'est pas en Russie l'Alaska? Non. Ce fut, je crois. Ce fut. Voilà. Et donc, on va en parler. Let's go. Salut, Leslie. Bienvenue. Merci, Tanguy Fripouille. Petite tablette. On va se brancher ça. J'ai eu peur. J'ai cru que j'avais oublié la tablette à la maison. Autant dire que ça aurait été le live le plus court de l'histoire de cette chaîne. Coucou, tu viens à notre mariage, t'es invité. C'est trop mignon. Merci Taline. Pourquoi l'Alaska? Bah parce que c'est la région finalement comment dire, la plus proche des. Enfin la moins éloignée de la Russie, déjà, il y a ce côté-là. Il y a aussi une histoire commune autour de l'Alaska. C'est sur le sol américain, donc Trump peut dire, vous voyez, c'est Poutine qui vient chez moi. Et en même temps, pour Poutine, c'est déjà un succès, puisque Poutine, il est quand même, il a un mandat d'arrêt, si je ne dis pas de bêtises, qui a été émis par la justice internationale. Il est quand même reçu sur le sol américain par le président Trump. Donc, quelque part, c'est aussi une forme de reconnaissance par les États-Unis, qui est déjà une forme de bénéfice pour Poutine. Mais on va en parler ce matin. Voilà, bah tiens, Cône de Chantier nous rappelle l'information. L'Alaska fait partie des États-Unis depuis le 18 octobre 1867. Et après, ils ont découvert des ressources. Pardon. Ton message est parti. Voilà. Et à cette date, les États-Unis l'ont officiellement acheté à la Russie à l'époque, 1867, pour 7,2 millions de dollars. Voilà. Quelqu'un disait dans le chat, imaginez, Poutine est arrêté sur le sol américain, il ne peut plus repartir. Ça n'arrivera pas. Hein. Ça n'arrivera pas. Ou... Quoique, je ne suis pas dans la tête de Trump. Hein. Voilà. Alors, King Floti nous précise exactement que les États-Unis ne reconnaissent pas le mandat d'arrêt international qui a été émis contre Poutine. Et donc, il peut venir en toute sécurité. Voilà, c'est aussi mon avis, mais on ne sait jamais avec Trump. Mais oui. Merci Rimec. Bon anniversaire à nous. Merci pour le 35e mois. Les États-Unis ne reconnaissent pas la CPE. La CPI, je pense, non? La Cour pénale internationale? Mais je crois que tu as raison, ouais. Voilà, c'est ça. Defecator, hello mon ami, nous le précise. Defecator, la chaîne qui défèque sur les fakes, sur YouTube, sur Twitch. Comme Netanyahou d'ailleurs, les États-Unis ne reconnaissent plus la CPI. Exactement. Bien vu. Allez, c'est parti. Le sommaire. De quoi je vous parle ce matin? Je vous montre ma petite tablette, là où sont mes journaux. Je vous les montre, hop, sur Twitch, je vous la montre aussi sur TikTok. Elle est là. On commencera donc avec cette histoire de sommet. C'est notamment la une, notamment hein, de Libération. Regardez. Trump-Poutine, opération dégel en Alaska. Les présidents américains et russes se rencontrent vendredi pour prendre le pouls, disent-ils, de la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui n'est pas invité, donc c'est quand même un sommet sur l'avenir de l'Ukraine, il n'y a pas les Ukrainiens. Et les Européens, ben, non plus, pas trop non plus, invités. Les Européens craignent un deal sur le dos de Kiev. Voilà, jolie une de Libé, comme souvent. Voilà, gros dossier, c'est le principal dossier ce matin dans Libération. Sommet en Alaska, Trump et Poutine, les tsars martiaux. Alors Libération, c'est un journal qui aime bien faire de jolies unes, qui aime bien faire de jolis titres aussi. Petit jeu de mots, arts martiaux, tsars martiaux. Merci Lia pour ton message, tu régales. Les présidents américains et russes pourraient décider de sceller le sort de l'Ukraine. C'est une espèce de. J'ai lu des Yalta 2.0 dans les journaux ces derniers temps. Hein. Décider de sceller le sort de l'Ukraine et sa souveraineté territoriale lors d'un sommet vendredi, hein, donc c'est demain. Demain, fin de journée, je sais plus. Dont Volodymyr Zelensky et les Européens sont exclus. Donc c'est bien ça, je ne vous disais pas de bêtises. En Ukraine, la peur d'être pris au piège par ce sommet. L'interview d'un spécialiste des questions internationales qui s'appelle Samuel Green. Bon, forcément quelqu'un de brillant, hein, puisqu'il s'appelle Samuel, bien sûr. Samir, j'ai un mail pro sur mon compte X, tu peux m'envoyer un message si tu veux. Poutine fait face à un acteur tout aussi imprévisible que lui. Ce que je trouve intéressant, notamment ce qu'on peut dire sur ce sommet. Merci Code Meurtre, merci Johar, merci pour les soutiens. C'est que avec Poutine et Trump, on peut s'attendre à tout, quoi. Ouais. Deux acteurs de la scène internationale plutôt imprévisibles. Donc gros dossier dans Libération, mais Libé n'est pas le seul journal à consacrer sa une à ce sujet. Je prends le Figaro, qui n'a pas la même ligne éditoriale que Libération. C'est ça qui est intéressant. Et donc peut-être un autre regard sur le sujet, ou parfois pas. D'ailleurs, parfois, des journaux très différents éditorialement, très éloignés, peuvent avoir des regards aussi communs sur certains sujets. Le sort de l'Ukraine entre les mains de Trump et Poutine. Le vertige d'un sommet. Les retrouvailles sans garde-fou de Trump et Poutine en Alaska. Donc, littéralement, ce sont ces deux gars, ces deux personnes qui vont décider de l'avenir d'un pays et d'un peuple. Hein. Voilà, c'est ce que nous dit Libération. Et puis l'armée russe qui continue de progresser dans le Donbass au prix de lourdes pertes, ce qui nous permettra de faire un petit point sur le conflit aussi. Voilà. Voilà. Alors, regardez ce titre, qui résume bien la situation quand même. Les Ukrainiens s'accrochent à la solidarité de leurs alliés, mais redoutent que leur avenir soit décidé sans eux. Bonjour Étienne, me dit Grain de sel, appelle-moi Samuel, Étienne, c'est mon nom de famille. En tant que journaliste, pourriez-vous nous donner votre position sur le Géno? Géno, tu veux dire génocide, tu veux nous parler de la Palestine. J'en parle littéralement tous les matins, depuis des mois, dans ma revue de presse sur Twitch. N'hésite pas à aller voir les replays, puisqu'on en parle quasiment tous les jours, pendant de longues heures, les replays du mois d'août, du mois de juillet, du mois de juin, etc. Tu as littéralement 3 heures par jour, avec souvent une longue heure consacrée à ce sujet. Alors moi, j'en parle depuis des années, mais plus précisément depuis effectivement les attentats du Hamas, Yazel, tu as raison. Et donc, si tu veux connaître ma position et nos échanges là-dessus, n'hésite pas à aller consommer ces replays. C'est gratuit sur Twitch et sur YouTube, mon ami. Voilà, les Ukrainiens s'accrochent à la solidarité de leurs alliés européens, mais redoutent que leur avenir soit décidé sans eux. Voilà. Donc gros dossier dans le Figaro également. Et on essaiera de comprendre un petit peu les enjeux de ce sommet. Ce qui vous permettra de le suivre aussi quand vous allez voir les informations ce week-end sur ce sommet. Bah, toutes les infos qu'on va se donner ce matin vont vous permettre de contextualiser un petit peu les informations que vous allez voir tomber à partir de vendredi soir, également samedi, quoi. Samuel, pourriez-vous parfois prendre des médias indépendants comme support, comme Mast? Alors, je pense que je vais écrire Blast, qui est un très bon média indépendant, effectivement. Et comme je l'expliquais au début de la revue de presse, mais tu n'étais pas là, je ne peux pas consommer tous les médias par manque de temps. J'ai fait des choix. Hein. Et moi, je lis la presse quotidienne nationale. Je pourrais lire plein d'autres sources de médiatiques et d'informations excellentes, mais je ne peux pas tout consommer. Voilà. Mais n'hésite pas, toi, à consommer Blast. Hein, c'est un excellent média et ils ont besoin de soutien. Je vous parlais également de la Suisse. À la faveur de la guerre commerciale, on est dans le sommaire toujours. À la faveur de la guerre commerciale, c'est dans l'opinion ça. Attends. C'est dans l'opinion, ça c'est ma tête aux yeux, ça. C'est dans l'opinion. Pourquoi j'ai mis ça là? Il y a Le Monde avant. À la canicule, on en parlera après. Ah, c'est ça. Vous savez, la guerre commerciale déclenchée par Trump, les droits de douane gigantesques qui a été décidé par les États-Unis sur plein de pays. On a tous été surpris par certains pays qui ont été frappés encore plus durement. L'Union européenne, à l'issue des négociations avec la Commission européenne, avec la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, c'est 15% de droits de douane supplémentaires, vous le savez, pour les exportateurs européens. La Suisse, c'est 39%. Voilà. Pourquoi la Suisse a été frappée par des droits de douane décidés par Trump de 39%, alors que l'Union européenne, par exemple, de 15%. Ça a été un vrai choc en Suisse. Voilà. Les hauts responsables politiques suisses se sont déplacés à Washington pour essayer d'influer sur la décision américaine. Et ils n'ont pas réussi à faire reculer les États-Unis. Et les entreprises exportatrices suisses se retrouvent avec des droits de douane de 39%. Voilà. Alors il y a plein de raisons. La Suisse ne fait pas partie d'un grand ensemble comme l'Union européenne, donc son poids diplomatique et politique n'est pas le même, avec un président américain qui, lui, est plutôt dans une logique de rapport de force. Donc c'est l'une des raisons, mais pas les seules. Et donc là, on a un article dans l'Opinion qui se penche sur cette question. Et les hauts responsables suisses que personne ne connaît, j'habite en Suisse, me disent justement chaud, c'est peut-être pas tout à fait faux, je ne sais pas. Voilà. Et donc on va essayer de comprendre pourquoi la Suisse est frappée par ces droits de douane gigantesques et qu'en pensent les Suisses. Voilà, je sais pas si... Salut Tox, Tommy, on voit des... Salut Axel, je vois qu'il y a des Suisses. Levez la main les Suisses. Vous me direz ce que vous en pensez de ces 39% de droits de douane. Salut, trop de balles avoine, joli pseudo. Lausanne, on est là. J'aime les petits Suisses. Non, ça n'a rien à voir, ça. Je suis 12,5% Suisse, ça compte. Genevois du côté d'Emmanuel, ok. Emmanuel CH, d'ailleurs. Le Valais, on est là, ça fait plaisir. Hey, vous êtes plein de Suisses. Fribourg. C'est quoi le deal avec la Suisse? Je viens d'arriver. On en parlera tout à l'heure, on est dans le sommaire. Neuchâtel, Zurich, Le Valais également, Lausanne. Ok, ça fait plaisir de voir. Regardez le commentaire de Nimar19. Bienvenue. Que je vous lis. Je vis en Suisse, je travaille dans l'horlogerie. Autant dire que cette décision n'arrange pas nos affaires. Tu m'étonnes. Pour l'industrie suisse, la Suisse est un pays qui est très exportateur. Notamment l'horlogerie, mais pas seulement. C'est une catastrophe, quoi. Donc on lira ce papier, on est dans le sommaire, donc je prends le temps. Après, je vous parlerai, oui, de la Une du Monde que vous avez dû voir ici, regardez. La canicule, il fait chaud, voilà, vous le savez, ça a plein de conséquences, mais notamment des conséquences sur l'économie. C'est la Une du Monde, canicule, des coûts durables pour l'économie. La vague de chaleur entamée le 8 août dans le sud-ouest se poursuit en France actuellement, je ne sais pas si vous n'avez pas un petit peu chaud, avec de nombreuses répercussions sur le monde du travail. Réacteur nucléaire à l'arrêt, l'histoire des méduses, ou d'eau jugée trop chaude pour être reversée dans les cours d'eau, pour protéger la faune et la flore. Chantier ralenti, je vais éternuer. Oh. Donc je parle quand même du réchauffement, je parle de la canicule, et j'éternue. Alors que je bouge ce ventilo que je me suis mis en plein dans le visage. Chantier ralenti, récolte perturbée, salariés exténués, de nombreux secteurs souffrent et tentent de s'adapter. Les conséquences économiques de la canicule, c'est la Une du Monde. Coup de frein durable pour l'économie. Et en fait, un coup de frein, nous explique Le Monde, pas seulement pendant la canicule. Voilà. Comme le dit Noctua dans le chat, je suis architecte, mes chantiers depuis début juin, c'est très compliqué, les retards s'accumulent. En fait, les conséquences économiques d'une canicule se poursuivent après la canicule. Et vous verrez pourquoi. C'est Le Monde qui nous l'explique ce matin. Mais on se baigne dans la Seine. Oui, Delon. Bon, enfin, bientôt, on ne pourra plus parce qu'il fera trop chaud. La Seine sera trop chaude. Merci, Sinfarge, pour le 19e mois. Voilà. Donc, on lira ce dossier dans Le Monde. Est-ce qu'il reste d'autres infos ce matin? Oh oui! Alors, je n'ai pas fait exprès. Mais on enchaînera littéralement la canicule et la cryogénisation. Alors je m'applique parce que je pense que j'aurais du mal à le dire. Cryogénisation. Voilà. C'est pas la cryogénisation, c'est pas la cryo, vous savez, pour les sportifs, là, pour récupérer plus vite. Je sais pas si certains font beaucoup de sport ici, mais parfois, hein, pour les sportifs amateurs qu'on voit vraiment, ou pour les sportifs pros, la cryo, c'est intéressant. Non, on a... De temps en temps, c'est tous les jours, on a ce petit commentaire qui est toujours sympa quand on parle du réchauffement climatique, du changement climatique. On a le fameux, c'est le tonton du week-end, vous savez. Il est de retour, il s'appelle Sid aujourd'hui. Et deux points, on voit les guillemets, c'est un petit plaisir. Arrêtez avec ça, franchement, des fortes chaleurs, il y en a déjà eu, ça n'est pas nouveau. Le fameux, c'est l'été, il fait chaud, c'est normal. Voilà. Bon, évidemment, quand on lit les études scientifiques, les rapports scientifiques, les rapports de la COP, quand on regarde vraiment les courbes des températures, quand on lit que ces températures actuelles autour de 40 degrés sont 10 degrés au-dessus des normales saisonnières, enfin bref, qu'on s'intéresse un minimum au sujet, on sait que ce commentaire n'a pas de sens, mais c'est intéressant qu'il en arrive quand même à avoir des gens qui l'écrivent quotidiennement. Je vous laisse lui expliquer, je peux pas tout raconter non plus. Donc la cryo, non, la cryo, c'est, il y a des gens aujourd'hui qui, quand ils décèdent, eh bien, demandent à être cryogénisés. Voilà. Dans l'espoir qu'un jour, eh bien, la technologie sera à même de nous redonner la vie. Hein, il y a des gens qui font ça et qui payent des sous. Alors ça, c'est un article que j'ai trouvé dans Le Figaro, page 15, je crois, page 16, je ne sais plus. Incroyable, incroyable. Du coup, ça nous fera un petit peu de frais en cette période de canicule. Ah, la canicule, vous savez, c'est l'été, c'est normal, vous vous rappelez. Je rêve d'être réanimé. C'est français, il y a des Français qui font ça. Ces Français ont choisi de se faire cryogéniser. À leur mort, ils seront conservés dans des cuves à moins 196 degrés. Ah bah, du coup, plus de problème de canicule. Hein. Oh, très bonne remarque de Moriartimus. Faut pas que la boîte fasse faillite. Ah ouais, ah oui. Ah oui, si la boîte fait faillite, on débranche la prise et... C'est comme les glaces. T'achètes des glaces pour l'été, pour la famille, pour les enfants. Et puis à un moment, il y a une coupure d'électricité. Et le congélo tombe en rade. Et finito la glace. Ah ouais, t'as raison. C'est pas bête. Merci Sinfarch. Merci Gadge. Merci Remake. Pas bête, pas bête. Voilà. À leur mort, ils seront conservés dans des cuves à moins 196 degrés. Alors pour le coup, c'est vraiment aussi une façon. Pour le coup, c'est une autre façon de lutter contre la canicule. Voilà. Avec l'espoir d'être réanimé dans le futur. Une pleine page dans Le Figaro. Bon. Alors on me dit que vous êtes plusieurs à me dire dans les deux chats d'ailleurs que l'excellent Simon, pourquoi tu dis Simon Veil, c'est pas Simon Puech plutôt Rhodes, c'est Simon Puech qui a fait une vidéo là-dessus je crois. Voilà. Tu dis Simon Veil, c'est pas Simon Puech plutôt, c'est Simon Puech hein. Ouais, c'est Simon Puech. Voilà. L'excellent Simon Puech qu'on a reçu. Voilà. Et vous êtes plein à me dire que cette vidéo est super. Alors Simon Puech, c'est un créateur de contenu, c'est un streamer, c'est un youtubeur qui s'intéresse à l'actualité, qui fait des super trucs. Ouais. Donc voilà, on parle de la cryogénisation, je m'applique. Et puis... un petit plaisir. Ça coûte combien ? Oh, ça coûte des sous. Hein. Ça coûte, c'est un abonnement. Hein. Voilà. Tous les mois. Je vais te dire une bêtise, j'ai plus le chiffre en tête, mais on verra. Alors, regardez ce petit article en bas, là. C'est du cinéma, hier c'était sorti cinéma, c'est mercredi, mais on parle d'un film encore aujourd'hui, jeudi, dans Le Parisien. Cadmerade. Pape invisible, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, l'article m'a étonné. Il y a un film qui est sorti hier, a priori, qui s'appelle Papa Mobile. Voilà. En France, il y a quelques centaines, que dis-je, quelques milliers de salles de cinéma. Il y a 7 cinémas et même je crois que 7 salles en fait, 7 salles qui projettent ce film, un film avec Cadmerade. Aucune salle en région parisienne par exemple. En fait, le producteur de ce film, alors comment c'est possible, Mix me pose la même question, j'ai tout compris en lisant l'article du Parisien. Le producteur de ce film, quand le film a été fini d'être tourné et tourné et monté, le producteur l'a regardé. Et il a dit, le producteur, le mec qui avait mis des sous, il a dit, ce film est nul. Ce film est un nanar. Ce film ne fera aucune entrée. Et donc, du coup, il a absolument pas fait la promotion de ce film. Et aujourd'hui, il sort dans 7 salles. Un film avec Cadmerade, quoi. Voilà, comme le dit Silas Castrali, qui a peut-être lu l'article, mais en tout cas qui est au courant de cette histoire, le film a été réalisé sur un script hyper porteur. Hein, souvent, on achète un film sur un script, voilà, voire sur une incarnation aussi. Cadmerade, c'est pas n'importe qui quand même. Hein, mais la réalisation catastrophique. Alors, il y a aussi un tout petit budget. Alors, le réalisateur dit le producteur, c'est un. Pardon pour les termes. Le producteur, c'est un con. En fait, c'est un humour un peu absurde. Voilà. Le producteur n'a pas compris le film. Il y a une intention, voilà, vous voyez, bon. Le synopsis, c'est l'histoire, en fait, Clemso. C'est l'histoire du film. C'est finalement le film raconté sur format papier, quoi. Avec les dialogues, avec les intentions de réalisation, avec la description des scènes. Voilà. Voilà. Bien sûr, Abdoul Hamid, tu poses les questions que tu veux. Moi, je suis là pour répondre aux questions. Ouais. Noté 1,6 par les spectateurs, on dit Noctua 1. Ah, d'accord, ok. Donc, il n'y a pas que le producteur qui n'a pas aimé, alors. Voilà. Du coup, le résumé de ce film, ça va être quoi? Ah, bon, on lira l'article tout à l'heure. Là, on est dans le sommaire. Et puis, si vous incitez à la fin, parce que j'ai honte, j'en ai pas parlé. Et si vous incitez à la fin, bah, peut-être que je vous parlerai bah, toujours en parisien, parce que c'est un peu normal. Bah, de la victoire du PSG hier, dans une nouvelle compétition, hein. Le PSG qui marche sur l'eau. S'il y a des supporters du PSG ici, je vous ferai un petit plaisir, vous me direz. Voilà. Et un trophée de plus. Voilà, page 12 et 13. Je vous vois, les supporters du PSG, je vous vois. Si vous êtes gentil, je vous lirai l'article. Paris nous rend fous. Mené 2-0, le PSG hier a décroché le trophée, la Super Coupe d'Europe. Alors j'ai lu que c'est la première fois qu'un club français gagnait. Salut Amat. Ce trophée. Qui oppose, si je dis pas de bêtises, le vainqueur de la Ligue des Champions au vainqueur de la Ligue Europa, c'est ça? Donc, le trophée face à Tottenham au tir au but. Voilà. Alors, c'était mal parti en plus, effectivement, il y a eu remontada. En moins de 10 minutes, me dit Rhodes. Ouais. Malgré un manque de préparation, puisque c'est le début de la saison hein, pour le PSG, là, après une saison passée de fou. Hein, champion de France, Ligue des Champions, Coupe de France, je suppose. Hein. Les Parisiens ont réussi l'exploit grâce à leur mental, leur détermination. Voilà. Donc, si vous insistez, je vous le lirai. Même si je suis un gros footix. C'est-à-dire que je ne suis pas un grand connaisseur de foot, quoi. Voilà, les amis, pour le sommaire. Donc là, le concept du sommaire, c'est que moi, je vous donne l'essentiel de la formation en quelques minutes. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Après, on prend le temps. Comment ça, la bande-annonce de Papa Mobile n'est pas trouvable sur YouTube? Attends, bah ça... On peut pas trouver la bande-annonce du film avec Admiral à ce point-là? C'est-à-dire que le film est à ce... Merci la forêt, c'est adorable. Merci la forêt. Bah. Mais la forêt, je... T'es le même la forêt que tout à l'heure, mais... Écoute, merci. Ah, sur Allociné, vous l'avez trouvé. Ok, d'accord. On ira voir cette bande-annonce et on ira se faire une idée, un avis sur ce film avec Admera que le producteur du film trouve nul. Oui, le producteur a boycotté son propre film. Oui, c'est fou. C'est dingue cette histoire. C'est dingue cette histoire. Ah, je vous lis un petit peu. Je remonte le chat, je remonte le chat. Quelques réponses à vos questions et on enchaîne avec l'actu. Merci Seb, merci pour vos questions pour un champion, c'est adorable. Il y a une pétition, hein? Si vous, sur Google, vous tapez pétition question pour un champion, vous allez voir une pétition qui a 50 000, 55 000 signatures. Vous la faites monter à 1 million, let's go, et puis question pour un champion revient en quotidienne, hein? C'est le producteur qui a écrit le film? Non. Non, le producteur, c'est celui qui finance BAF. Ouais. Oui, parce que Lucas qui dit maintenant que les grilles ont été déposées, ouais, mais ce sera pour janvier ou ce sera pour septembre de l'année prochaine. Let's go! Moi, j'ai rien à perdre, hein, de toute façon. Moi, je suis un têtu. Je suis un têtu. J'ai décidé que c'est en mon fort intérieur, et je suis pas le seul, que c'est une mauvaise décision. Moi, je suis un têtu. Je suis un têtu. Donc, je vais pas lâcher l'affaire, hein. Aussi longtemps qu'on me laissera la parole là-dessus, je dirais que c'est une mauvaise décision et qu'il faut que. Abdoulhamid, tu n'as pas écouté mes streams sur la question palestinienne. Voilà, va faire un effort. Hein. On n'est pas sur X ici. Hein. On réfléchit, on prend le temps. Va te taper n'importe quel de mes streams de ces 5 dernières années sur la Palestine et sur le Proche-Orient et sur Israël et tu verras que ta question n'a aucun sens. Voilà. Mais je ne suis pas là pour discuter avec des gens ici qui n'ont pas fait un effort minimal. Voilà. Va regarder mes streams, c'est gratuit, chouchou. T'as un petit peu de temps, c'est les vacances. Il y a le week-end qui arrive. Tu vas sur YouTube, tu vas sur Twitch, c'est gratuit. Et une fois que tu auras fait ce travail, de savoir ce qu'on dit ici du Proche-Orient, d'Israël, de la Palestine. Tu pourras revenir en discuter avec nous, mais là, tu es à côté de la plaque. Ok? Je te le dis avec gentillesse. Samuel, en tant qu'opticien, ça fait plusieurs jours que je vois tes lunettes et je les trouve grandes. Non, ce n'est pas mes lunettes qui sont grandes, c'est ma tête qui est toute petite. Que tu sois contre la décision de France Télévisions, ça te met pas en porte-à-faux? Ah si, 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 Clemso, bah si, si, tu m'étonnes. Bah, on est fous, on est les falas ici, on est des punks. Hein. Tu en parles quasiment tous les jours de la Palestine du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Ouais, Léana, tout à fait. C'est vrai, c'est vrai. Comment dire à ma grand-mère que cet homme vit une double vie? Ben, comme ça, Hugo. Dis-lui. Dis-lui, mais elle sera, je suis sûr qu'elle sera très compréhensive. Moon Boobs, sur le dérèglement du Gulf Stream et ses conséquences sur le climat européen, je trouve régulièrement des articles là-dessus. Alors, pas tous les jours, mais j'ai lu des articles dessus. Enfin, j'ai vu des articles dessus. Je l'ai évoqué vite fait sur ces derniers jours. Mais si ça t'intéresse, j'essaierai de trouver un article un peu de fond sur la question et, dans une prochaine revue de presse. Ouais. Mais ça n'est pas totalement absent du traitement médiatique des changements climatiques, hein, le Gulf Stream. Merci Erwan, merci, merci Nico. Merci Mongâtre pour le 45e mois. Tu penses quoi du développement du Twitch FR avec ton amant Zach Nani? Que le Twitch FR est en pleine forme. Voilà, et qu'on a beaucoup de chance d'avoir cette scène Twitch en France. Salut Louis. Non, c'est juste de la modération. C'est parce que je. Louis de la Pampa, magnifique pseudo. Ici, on cherche à créer un climat plutôt. Alors, pas les bisounours, mais un truc à peu près acceptable en termes d'ambiance, voilà, pour échanger ensemble, pour s'intéresser à l'actualité ensemble, sur les sujets parfois extrêmement compliqués, qui provoquent beaucoup de tensions. Je parlais du Proche-Orient à l'instant. Voilà. Donc, c'est ma chaîne. Donc, je veille à un certain climat. Et quand ça part en sucette, eh ben, voilà, on prend des décisions qui sont des décisions de modération. Voilà. Et puis ça, si ça vous plaît pas, il y a plein d'autres chaînes. Donc voilà, c'est juste un cadre qu'on crée ici. Merci Seb. Bon, la Birmanie, Lewis, c'est vrai que la Birmanie, c'est un sujet qui médiatiquement a été, qui est très oublié. Hein, t'as raison. Hein. Merci Atrobus. Bon, on y va pour la revue de presse? On y va pour la revue de presse, ça vous va? C'est parti, let's go. C'est parti.
Ok.
Vamos. Je vais mettre un peu d'eau dans ce verre pour s'hydrater, puisque avant on faisait ces streams au café. Au Coca, au Red Bull. Bon, et puis maintenant on tourne à l'eau parce qu'on essaie de s'acheter une vie saine. Allez, eau du robinet, let's go. J'en ai pour littéralement 20 secondes. Vous comptez?
20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est bon. Promesse tenue. Oh, folie. On tourne à l'eau maintenant. Bah, je sais pas pourquoi, ça va être la vieillesse. Mais j'ai une vie de plus en plus saine. Voilà. On a supprimé le sucre, on boit de l'eau. Quelle vie chiante, bordel! Voilà, la vieillerie. Merci tes collègues. Puis on ira même courir après le stream là. Allez, on parle de ce sommet demain entre Trump et Poutine pour décider de l'avenir de l'Ukraine. C'est notamment la une ce matin de Libération. On va commencer par ce
Journal. Hop, je vous mets tout. C'est parti. Libé. Opération dégel en Alaska. Attends, j'avais pas vu le titre. Alaska, dégel, pas mal. Trump, Poutine. Les présidents américains et russes se rencontrent vendredi pour prendre le pouls. Ce sont leurs termes de la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky n'est pas invité. Président ukrainien, les Européens non plus. Et ils craignent un deal sur le dos des Ukrainiens. Édito d'Alexandra Schwarzbrod pour commencer. Qu'est-ce que c'est un édito ? C'est un article où le journaliste donne son avis sur le sujet. Alexandra Schwarzbrod qui signe d'excellents éditoriaux dans Libé. Lisons cet article qui va nous donner un petit peu le ton de ce que Libé veut raconter là-dessus, quoi. Si on avait encore un doute sur l'état d'esprit de Poutine à la veille de sa rencontre avec Trump, le voilà balayé par la percée de son armée ces derniers jours en Ukraine. Enfin, percée... Il y a une petite avancée, effectivement, de l'armée russe dans la région du Donbass. Merci, Setsi, pour le prêt. Ce n'est pas une négociation de paix qui va se jouer demain en Alaska, mais bien une pièce de théâtre, dans laquelle chacun des deux chefs d'État jouera un rôle soigneusement écrit à l'avance et longuement répété dans l'espoir de recevoir un Oscar, enfin en fait le prix Nobel de la paix, puisque c'est l'un des rêves de Trump, recevoir le prix Nobel de la paix. Donc pour Trump, soit des territoires arrachés par la force, pour Poutine. Alexandra Schwarzbrod estime que tout est joué d'avance. Alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette analyse, même si j'aime beaucoup Alexandra Schwarzbrod, parce que je pense que avec Poutine et Trump, deux acteurs imprévisibles, salut la petite potière, tout est toujours possible. Voilà. Mais bon, Alexandra Schwarzbrod, peut-être que c'est moi qui ai tort et que ce qu'on va apprendre dans les prochains jours sera exactement ce que Alexandra Schwarzbrod annonce, quoi. Le président russe arrive avec un très net avantage à cette pseudo-table de discussion, mise au banc de la communauté internationale, si elle existe encore, se demande la journaliste, après son invasion de l'Ukraine le 24 février 2022 et le bain de sang qui a suivi, 1,4 million de soldats tués ou blessés, le voilà, Poutine, accueilli avec les honneurs. Et c'est vrai que c'est déjà une première victoire diplomatique pour le président Poutine, avec les honneurs, par le président de la première puissance mondiale, alors qu'il est l'objet, vous étiez plusieurs à le rappeler dans le chat tout à l'heure, d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, cette CPI qui... n'est pas reconnu par les États-Unis. Donc, pour répondre à vos questions tout à l'heure, effectivement, comme les États-Unis ne reconnaissent pas la CPI, la Cour pénale internationale, il y a peu de chances qu'ils soient arrêtés sur le sol américain. Pour Poutine, c'est un retour en grâce inespéré, obtenu sans aucune contrepartie. L'homme a bien compris la faiblesse de l'Américain et plus encore celle du négociateur dépêché par Trump à Moscou, et il en joue avec un plaisir qu'il ne dissimulera certainement pas vendredi. Alexandra Schwarzbrod a une vision très pessimiste de ce qui va se passer demain en Alaska, quoi. Les Européens, eux, alors quid des Européens, en sont réduits, comme devant l'anéantissement de Gaza par Netanyahou, à être de simples spectateurs, voire de répétiteurs pour Trump, tant que la crainte est grande qu'ils ne connaissent suffisamment pas son texte. L'Europe, principal soutien aujourd'hui militaire de l'Ukraine, a pourtant des atouts, dont les deux tiers des avoirs russes gelés. Mais si elle arrive à pousser en coulisses pour un cessez-le-feu, ce sera le maximum. Il serait peut-être temps qu'elle monte sur scène pour enfin jouer son rôle. Voilà. Bon, Alexandra Schwarzbrod a quand même une vision extrêmement pessimiste de ce qui va se passer. On verra si l'avenir des prochains jours lui donnera raison. Trump et Poutine, les tsars martiaux. Pas mal. Pas mal. Les arts martiaux, les tsars martiaux. Oui, je suis les deux chats, Razo. Salut Sugar. Donc là, c'est l'édito. Puis il y a un gros article qui est signé par Julien Gester, qui est correspondant à New York de Libération, que je vous propose de lire un petit peu parce que le sujet est important. Il se trouve bien aux États-Unis quelques esprits plaisantins pour s'amuser de cette vertigineuse rencontre prévue. Trump adore parler de la nécessité d'empêcher les criminels étrangers d'entrer dans le pays. La lutte contre l'immigration, vous savez. Lancé par Trump. Et voilà qu'il dit « Vladimir Poutine, viens par ici ». C'est ce qu'a fait ainsi mardi soir Jimmy Fallon, l'humoriste et présentateur du Tonight Show. Quel souci, trahirie, inquiétude, consternation ou souvent tout cela à la fois, l'invitation sur le sol des États-Unis du seigneur de guerre du Kremlin 4 ans après sa dernière rencontre avec un président américain à Genève en 2021. La dernière fois que Poutine a rencontré un président américain, c'était il y a 4 ans. Joe Biden ne lui aura plus parlé depuis le déferlement de soldats russes en Ukraine l'année suivante. Apparaît un généreux cadeau diplomatique déjà acquis par Moscou. Pourquoi l'Ukraine n'est pas à table de négociation? Très bonne question de Nanous. Ben, tout simplement parce que l'Ukraine n'a pas été inventée ni par Trump, ni par Poutine. Ou alors que peut-être, imaginons que Trump ait pu le souhaiter, à supposer, Poutine a mis son veto. Ben, à supposer. Victoire personnelle pour Poutine, comme l'a déploré mardi depuis Kiev le président Volodymyr Zelensky, et ce, au mépris de ce mandat, pourtant, émis par la cour d'arrêt de la Cour pénale internationale, non reconnu par les États-Unis, hein, lancé en 2023 contre Poutine pour déportation illégale d'enfants ukrainiens. Anecdotique sans doute et néanmoins embarrassant, le lapsus répété deux fois par Trump au pupitre de la salle de la presse de la Maison-Blanche lundi, voilà, au sujet d'une rencontre prévue avec Poutine vendredi en Russie. N'en sera que plus que confondant. Alors oui, hier ou avant-hier, des gens dans le chat m'ont dit Trump en conférence de presse s'est trompé et il a dit que la rencontre en Alaska se tiendrait donc en Russie. Et je vous dis, c'est pas possible. Le gars est quand même pas à ce point pas concentré qu'il pense que l'Alaska c'est en Russie. Et on était allé vérifier, si, vous aviez raison. Par deux fois, Trump, à propos de ce sommet, a dit que il rencontrerait donc Poutine en Russie. Voilà. Donc manifestement, il ne savait pas que l'Alaska, c'était le sol américain. Bon, donc oui. Détails, mais détails révélateurs selon Libération. Le choix de la destination réelle n'arrange rien avec sa symbolique chargée, tant par son histoire, l'Alaska rachetée par Washington à la Russie en 1867, l'Alaska reste sujette à des fantasmes impérialistes fréquemment touillés depuis Moscou, que par son emplacement géographique le plus loin possible d'une Europe tenue à l'écart du sommet de vendredi, l'Europe a signé à la table des enfants, alors même qu'elle se trouve sur son sol et dans sa chair, le théâtre tragique des batailles auxquelles ce sommet historique prétend mettre fin. La guerre en Ukraine, c'est sur le sol européen. L'Europe n'est pas invitée à ce sommet. Voilà. L'Ukraine n'est pas invitée à ce sommet. Trump, certes, n'ose plus se mouiller autant qu'auparavant. Voilà. Trump, assez prudent avant ce sommet. C'est une réunion pour prendre le pouls, dit-il. Vantant tout de même qu'il serait probablement dans les deux premières minutes si un accord était possible. Voilà. Je pourrais dire « bonne chance, continuez donc à vous battre » ou je pourrais dire « on peut conclure un accord ». La promesse de campagne trumpienne de régler le conflit russo-ukrainien en 24 heures, puisque dans sa campagne présidentielle pour son deuxième mandat, Trump avait promis de régler ce conflit en 24 heures. Bon, c'était il y a plusieurs mois et évidemment cette promesse n'a pas été tenue. Enfin, ce ne sera une surprise pour personne. Kiev et ses alliés européens tenus spectateurs redoutent comme jamais de voir le président américain tenter de réaliser enfin cette fanfaronnade à sa sauce, hein, à corps express. En deux minutes donc, et selon ses seuls termes, en scellant par exemple avec Poutine le genre d'accord de cessez-le-feu qui engagerait l'Ukraine dans des cessions et échanges de territoires dont ni Zelensky ni la constitution de son pays ne veulent entendre parler, puisque dans la constitution ukrainienne, en fait, tu ne peux pas céder des territoires comme ça. Il faut un référendum. Il faut une validation par les Ukrainiens et les Ukrainiennes. Et pourtant, Washington affiche cette solution, hein, de céder des territoires comme une très sérieuse hypothèse sur la table des tractations, quelque part entre l'allègement des sanctions visant Moscou et le juteux deal énergétique en Arctique. Je lis cet article parce qu'il est plutôt complet, donc on va prendre le temps. Je vous lis aussi un petit peu. Pourquoi vous ne parlez pas de Gaza? On en parle tous les jours, les gars, littéralement dans les heures. Voilà, il arrive assez rarement comme aujourd'hui que je vous mette pas d'article de côté. Mais si tu as le courage de te taper plusieurs mois ou plusieurs années de replay de cette chaîne sur YouTube et sur Twitch, voilà, tu as littéralement des centaines d'heures sur Gaza à consommer sur cette chaîne. N'hésite pas, bon courage parce que ça en fait des heures, mais tu verras ce qu'on dit et ce qu'on pense de ce sujet sur cette chaîne. De rien, les gars, bon courage. Voilà, mais on en reparlera. Mais reviens lundi, reviens mardi, reviens mercredi, Léa, tu verras, on en parle tous les jours. Alors c'est vrai que, et Libération le rappelle, Trump, ces dernières semaines, avait montré son irritation. Voilà. Son irritation, comprenant que Poutine, littéralement, ne faisait, selon Trump, aucun effort quoi, pour aller vers la paix. Trump avait certes fini par paraître s'irriter ces dernières semaines à force de voir ses efforts de pacificateur au grand cœur humanitaire être non seulement mis en échec, mais éhontément bravé par le redoublement depuis son retour à la présidence du nombre de frappes russes contre les civils ukrainiens. Le wataboutisme, c'est fatigant à force, mais je sais pas comment tu fais, je suis habitué. Tout va bien. Cependant, comme l'aura souligné cette semaine l'ancien ambassadeur américain à Moscou, Michael McFaul, le ton de Trump envers la Russie et l'Ukraine a encore changé. Zelensky est à nouveau présenté comme le fauteur de troubles. Les mots sont plus tendres ces derniers jours pour Poutine. Ce n'est pas bon, dit-il. Je ne vous lis pas tout l'article, vous irez le lire si ça vous intéresse dans Libération. Libération qui nous dit que la disposition sur la table du Kremlin, inacceptable vu de l'Ukraine, s'avérerait au final toujours la même. Le renoncement ukrainien à tout ce qui lui reste de territoire repris aux Russes, hein, dans le Donbass, dans cet est du pays largement envahi, comme préalable à un hypothétique accord de cessez-le-feu négocié entre Poutine et Trump qui gèlerait l'actuelle ligne de front. Voilà. A minima, l'abandon par l'Ukraine de tous les territoires, toutes les régions perdues par l'armée ukrainienne ces derniers mois. Voilà. Donc, proposition qui gèlerait l'actuelle ligne de front. Du moins jusqu'à la prochaine invasion. Jusqu'à ce que Poutine décide de relancer les initiatives. Il est évident qu'un cessez-le-feu ou un accord de paix aujourd'hui n'empêchera pas Poutine, dans un mois, dans deux mois, dans six mois, dans un an, de relancer cette guerre. Puisque ses arguments, hein, l'Ukraine, en gros, c'est la Russie, n'auront pas changé. Mais entre-temps, Trump pourra, lui, éventuellement se gargariser, se vanter d'un accord de cessez-le-feu en disant, vous voyez, je suis le pacificateur, je suis celui qui amène la paix. Alors, Libération rappelle un précédent qui est un petit peu inquiétant. Le précédent rendez-vous entre les deux hommes, Trump et Poutine, en 2018 à Helsinki, avait débouché sur une vaste consternation jusqu'en dans les rangs de son parti, de Trump, quand le président américain affirma à l'époque accorder, écoutez, plus de confiance en la parole de Poutine qu'en ses propres services de renseignement au sujet de l'ingérence présumée de la Russie dans sa victoire de l'élection présidentielle de 2016 aux États-Unis. Je pense qu'on va lire aussi l'interview de Samuel Green, là, qui est un chercheur sur les questions internationales. Ce titre m'intrigue un petit peu. Poutine fait face à un acteur tout aussi imprévisible que lui. Je pense que ça peut être intéressant aussi. Je vous lis un petit peu, juste avant de passer à ça. Je remonte le chat parce que j'ai loupé beaucoup de commentaires. Salut John Adam Smith. Et bon courage pour ton mémoire. Comme l'avait dit quelqu'un hier, me dit Hachoum 88, si on laisse Poutine récupérer les territoires ukrainiens, ça va faire jurisprudence pour d'autres invasions. Bah, surtout, ça peut encourager ses appétits quant à d'autres pays européens. En Biélorussie notamment, on est extrêmement inquiet aujourd'hui. Merci Iprojège pour le 9e mois. Coucou, tu vas jouer dans pas longtemps ou pas? Vava, le matin je joue pas. Le matin on est plutôt sur l'actu. Bienvenue. Bonjour, le ton de Trump change tous les jours, non? Me dit Christophe. J'avais cru comprendre qu'il avait durci son discours contre Poutine après ses échanges avec les Européens. Oui, le ton de Trump varie assez souvent sur tous les sujets d'ailleurs. Voilà. Opportuniste, disent ses opposants. Quelqu'un qui sait s'adapter, disent ses partisans. Tu sais, Samuel, si on peut avoir des abonnements pour les journaux avec tarif étudiant? Oui, la plupart des journaux proposent des réductions pour les jeunes et ou les étudiants. Tu as les infos sur leur site, ouais. Tu as aussi, Si tu vas voir du côté du site de la Bibliothèque nationale de France, la BNF, quand tu es étudiant, il y a aussi un petit truc assez malin pour avoir accès à plein de journaux vraiment pas cher, quoi. Voire même gratuitement. À checker. BNF, Bibliothèque nationale de France. Il paraît que c'est top. Bon, évidemment, comme je ne suis ni jeune ni étudiant, je suis pas allé voir, mais il paraît que c'est pas mal. Je vous lis. Vazdav, si Poutine voulait vraiment envahir l'Ukraine, ça fait longtemps que ce serait fait. Donc ton hypothèse, c'est que Poutine se retient. Ton hypothèse, c'est que Poutine sacrifie la vie de milliers de soldats russes, mais que c'est, mais qui et qui bombarde les populations civiles ukrainiennes, mais dans une forme de retenue, c'est ça? C'est une analyse intéressante. En fait, il fait exprès de ne pas y arriver alors. C'est ça? Ok. Bon, lisons cet article qui m'intrigue un petit peu. Poutine fait face à un acteur tout aussi imprévisible que lui. Pour Samuel Green, fondateur de l'Institut de Russie au King's College de Londres, bon, chercheur sur les questions internationales manifestement, la réunion entre Trump et son homologue du Kremlin est l'occasion rêvée pour ce dernier de contourner les Européens. De quoi s'agit-il? Après plus de 3 ans de guerre, 3 ans de guerre, Donald Trump pourrait accéder aux demandes, notamment d'annexion de territoire ukrainien de Vladimir Poutine. Face à une UE peu stratégique et une Ukraine écartée des discussions, les espoirs de paix sont minces, explique ce professeur. Pourquoi Poutine a accepté ce sommet déjà? Proposé par Trump. Donc déjà, Libération rappelle que c'est Trump qui est à l'origine du sommet et que Poutine a accepté. Ce sommet pourrait bien être une initiative de Poutine lui-même, répond le chercheur. Bien sûr, il est présenté comme voulu par Trump, mais cette rencontre ne pourrait être mieux conçue pour servir les intérêts de Poutine. D'abord, il se tient sur le sol américain dans un pays qui ne reconnaît pas l'autorité de la Cour pénale internationale. Okay. Voilà. Cela annihile l'idée que Poutine est isolé et montre qu'il est pris au sérieux par la nation la plus puissante du monde. C'est également une négociation en tête-à-tête qui écarte les principaux adversaires de Poutine, comprenez l'Ukraine et surtout l'Europe. C'est aussi l'occasion d'aborder un agenda beaucoup plus large avec les États-Unis, parce que les deux hommes ne vont pas parler que de l'Ukraine. Hein. Ils vont parler de plein d'autres choses. Donc, ce chercheur dit que c'est déjà une victoire pour Poutine. Salut Nevaï. Merci Drin Drin. Merci Méga. À quoi doit-on s'attendre? Très bonne question. Voilà. Un vrai combat d'opportunistes, répond-il. Au départ, l'administration Trump laissait entendre qu'il y aurait des discussions détaillées sur la fin de la guerre, notamment sur les échanges de territoire. Immédiatement, le Kremlin a précisé que ce n'était pas vraiment sur la table. C'est une procédure très inhabituelle. Normalement, il y aurait dû y avoir des mois de préparation et des diplomates chevronnés auraient négocié des textes prêts à être signés par les deux présidents. Hein, c'est ce qui se passe en général avant ce type de sommet. Merci Oscarapus, merci pour ton Prime, tu régales. Et ça n'a pas été le cas. Du coup, le chercheur nous dit, le scénario catastrophe pour l'Ukraine et les Européens serait que Trump accède aux demandes russes et force l'Ukraine et l'Europe à les accepter. Les deux hommes pourraient s'entendre demain sur les contours d'un cessez-le-feu qui pourrait mettre fin au combat sur les positions, sur les termes de la Russie, sans aucun réel effet dissuasif contre une éventuelle reprise des hostilités dans 15 jours, dans un mois, dans 6 mois, dans un an, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Poutine veut un adversaire affaibli pendant que lui reconstruit ses forces. En tout cas, il ne faut pas s'attendre à ce qu'une véritable paix émerge de ce sommet, dit encore ce chercheur. La guerre dure depuis 3 ans et demi, avec des racines qui remontent au moins à 2014, et qu'on s'intéresse à l'histoire de la région depuis plus longtemps, bien sûr, vous le savez. Construire une paix prendra des années. Quel type de négociateur est Poutine ? C'est intéressant, ça. Quel type de négociateur est Poutine ? Intéressons-nous un petit peu à la psychologie des deux hommes. Poutine aime le processus de négociation. Même s'il ne s'intéresse pas particulièrement au résultat final en temps normal, il est la source d'imprévisibilité dans toute négociation. Il peut appliquer son style de négociation façon KGB. Poutine est un ancien du KGB. Et déstabilise ses adversaires. Mais aujourd'hui, il a en face de lui un acteur tout aussi imprévisible que lui. Salut les 10 futurs, tu régales. Ce qui augmente les risques de sa stratégie. Si Trump veut à tout prix parvenir à un accord, le président russe sait qu'il peut obtenir des concessions qui n'ont rien à voir avec le dossier ukrainien. Voilà. Poutine est un opportuniste. Les deux le sont d'ailleurs. Et en géopolitique, il ne croit pas à l'amitié, seulement aux intérêts. Comme Trump. En ce moment, il est dans son intérêt d'avoir les États-Unis de son côté, surtout si Trump lui facilite la tâche. Le président américain semble convaincu que Poutine est son ami. Comprend-il qu'il est manipulé ? Croit-il réellement à une connexion personnelle ? Lui seul le sait. Je suis pas un grand soutien de Trump, vous le savez, pour plein de raisons, hein, à commencer par sa conception de la démocratie, mais je trouve que c'est quand même le prendre totalement pour un idiot de penser que Trump estime que Poutine est son ami, quoi. Bon, je pense quand même à ce niveau-là, Trump c'est quand même un homme d'affaires, un businessman. Je crois pas que Trump croit beaucoup au concept d'amitié. Je ne crois pas que dans ses relations d'affaires, il soit en mode amical, quoi. Et je pense pas qu'en tant que président non plus, quoi. Je trouve ça, même si j'ai pas beaucoup d'admiration pour le personnage, supposer que Trump pourrait se faire avoir parce qu'il pense que Poutine est son ami, bon, je suis pas sûr, quoi. Dernière question de Libération à ce chercheur. L'économie russe semble en difficulté et l'armée perd des hommes. Poutine, c'est vrai qu'il y a eu des chiffres ces derniers temps sur l'économie russe, ça va pas très très fort. Poutine est-il sous pression pour conclure un accord ou gagner du temps ? Il ne faut pas exagérer les difficultés de l'économie russe, estime ce chercheur, elle n'est pas en grande forme, mais elle n'est pas non plus au bord de l'effondrement. Idem pour l'armée, elle paie un prix énorme pour des gains limités, mais elle peut encore se le permettre. Alors que l'armée ukrainienne, vous savez, est vraiment à l'os, quoi. Si l'UE et ses alliés avaient un programme plus stratégique et stable, d'augmenter régulièrement par exemple les sanctions et de renforcer l'aide militaire à l'Ukraine, cela renforcerait la pression sur l'économie et sur l'armée russe. Mais ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'administration Trump est pressée. Elle fixe des échéances pour la fin de la guerre qui arriveront bien avant que la Russie ressente une véritable pression économique. Poutine veut se montrer plus patient que Trump, plus patient que les Européens. C'est intéressant. C'est intéressant. Je vous lis un petit peu sur ce dossier de Libération, sur ce sommet. Sur l'Ukraine de demain, et après on va lire le même dossier dans le Figaro. Je vous lis. Salut Didou, un grand coucou au Lorientais. Bonne journée à Razomélia. Salut le sang. Si, le sang. Léa Naïs qui me dit, tu as vu Samuel que le mariage pour tous risque d'être menacé aux États-Unis, la Cour suprême va devoir se pencher sur une requête et s'ils acceptent, ils pourraient revenir dessus. Ok, alors je n'ai pas vu cette info, mais du coup tu me l'apprends Léana et je vais surveiller l'actu là-dessus, ok. Ça me semble important. Salut Drakeos, comment vas-tu mon ami? Samuel, peux-tu préciser, si tu le penses aussi, me dit SP Fanta, que ce conflit n'est qu'un tour de chauffe et d'observation entre les États-Unis et la Chine en prévision de Taïwan. C'est pas complètement faux. Ouais. En tout cas, effectivement, la Chine regarde ce conflit ukrainien avec beaucoup d'intérêt, puisque la Chine qui a des visées, vous le savez, assumées sur Taïwan. Si la Chine voit effectivement que la communauté internationale finalement lâche l'Ukraine et qu'un grand pays peut décider d'envahir un petit, finalement, sans que ça porte trop à conséquences, effectivement, la Chine pourrait être... comment dire, ça pourrait donner des idées à la Chine quant à son invasion un jour de Taïwan. On sait que la tension militaire dans cette région est au maximum, quoi. Avec notamment des exercices des deux côtés, régulièrement. Poutine n'est pas sous le coup d'un mandat d'arrêt international, si le NOD, carrément. Mais les États-Unis ne reconnaissent pas la CPI. Arthur, tu as aussi entendu parler de cette histoire sur le mariage homosexuel aux États-Unis? Ok. Eh bien, je vais surveiller ça. Jules me dit: salut Sam, je pars dans une semaine en Ukraine rencontrer la famille de ma copine qui a fui la guerre il y a 3 ans. J'espère de tout cœur fêter l'arrêt des combats avec eux. J'espère que les récentes avancées russes, me dit White Tyson, for real, ne sont pas un levier de négociation supplémentaire. Il y a un article dans le Parisien dans Le Monde, pardon, qui parle de cette percée russe, justement. Page 2 dans Le Monde, n'hésite pas à aller voir. Ça, effectivement, il y a une avancée dans la région du Donbass, là, effectivement, des troupes russes. Voilà. Clairement, l'armée russe a reçu l'ordre d'avancer au maximum avant le sommet pour arriver en position de force. C'est une évidence. Tu as raison. Je m'occupe de réfugiés ukrainiens à Rennes, me dit Amol Antitaf. Coucou les Rennais. Ils sont terrorisés à l'idée de cette réunion. Ouais. Ok. Lisons, si vous voulez, la même actu, le même dossier, sur le même sommet, mais dans le Figaro, pour voir si on apprend d'autres choses, si le regard est le même, quoi. Oui, effectivement, Nix, tu as raison. À propos de cette avancée russe dans le Donbass, des soldats infiltrés sur 10 km qui fait suite à 3 mois de bombardement intense sur la zone, c'est la plus grande avancée de l'armée russe depuis longtemps. C'est exactement ce que dit Le Monde, tu as raison. Alors, que dit le Figaro là-dessus? Bon, j'ai l'impression que le constat est à peu près le même. Merci Tinko pour l'info. Bah, tu vois, je l'ai raté celui-là. Je l'ai raté, c'est fou. Parce que j'ai lu le Parisien il y a 2 jours, je ne l'ai pas vu. Le sort de l'Ukraine entre les mains de Trump et de Poutine. Le président russe espère obtenir un cessez-le-feu lors du sommet qui aura. Le président américain, pardon, ça n'a pas de sens. Le président américain espère obtenir un cessez-le-feu lors du sommet qui aura lieu demain. Son homologue russe y voit surtout l'occasion de marginaliser Kiev et les Européens. Je lis l'édito pour voir s'il nous apporte d'autres choses. Lisons-le. Édito de Philippe Gély. Le regard du journaliste Philippe Gély du Figaro sur le sommet de demain. Scarapuche, je t'ai remercié tout à l'heure? Je sais plus. Merci Lorenzo Gény. Ainsi, Vladimir Poutine va ajouter les États-Unis d'Amérique à la liste jusque-là moins reluisante des pays l'ayant accueilli depuis qu'il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international pour crime de guerre. Le fait même qu'il soit reçu sur le sol américain, rappelons à Trump que l'Alaska c'est aux États-Unis et pas en Russie, comme il l'a dit déjà 2 fois, c'est déjà une victoire pour Poutine. Un succès en soi, écrit donc Philippe Gély, mais qui n'est qu'un avant-goût du festin diplomatique auquel se prépare l'ex-paria du Kremlin en allant rencontrer vendredi Trump en Alaska. On peut être saisi de vertige devant les implications de ce sommet dont les absents seront nécessairement voués à payer les pots cassés. Les absents, l'Ukraine, l'Union européenne. Les deux chefs de puissance aux aspirations hégémoniques semblent décidés à se réconcilier, ce qu'ils ne peuvent concrètement faire que sur le dos de l'Ukraine et de la France. De l'Europe, pardon. Le plus grand flou règne à Washington, au-delà des échanges de territoires envisagés. Je crois que c'est Trump qui a parlé de ça. Salut Permis Express et au revoir Permis Express. Il y a un gars qui vient faire la promotion de sa formation au permis de conduire au code de la route dans le chat. Voilà, il a fait une sortie de route. Quelqu'un l'a arrêté sur le bord de la route du chat et lui a dit « Eh oh, n'est pas là pour de la pub, hein ?» C'est le policier Samuel Etienne qui a « Vos papiers, s'il vous plaît. Papier du véhicule. » Je l'ai arrêté, je lui ai dit. « Mais papier du véhicule. Dites donc, c'est vous le propriétaire ? C'est pas votre nom, là ?» Chut. Allez hop. Ouais. On souffle dans le ballon, dépistage de stupéfiants, voilà, appel aux collègues, voilà. Bon, désolé. J'en étais où, moi, avant de partir en live, là. Ici. Donc, voilà, les échanges de territoire. Le plus grand flou règne à Washington, au-delà des échanges de territoire envisagés, quelles intentions, quels plans, quelles attentes, quelles concessions, quelles lignes rouges ? Il y a de quoi justifier l'agitation des Européens mobilisés en mode panique ces derniers jours pour justement tenter de combler les vides sur tous ces points. Merci RS, tu régales. Côté russe, on avance méthodiquement ses pions, maintien inflexible des exigences formulées depuis 3 ans, qui visent à dépecer l'Ukraine et à la priver de sa souveraineté, pression militaire maximale et percée inédite sur le front pour amorcer le dialogue en position de force. Ce qu'on évoquait tout à l'heure à propos de la région du Donbass ces derniers jours, offre minimale de cessez-le-feu conditionnée à la cession de territoire pas encore conquis. Il est très fort, le Poutine. Pour Poutine, la normalisation des relations avec Washington, coopération économique accrue, relégation de l'Ukraine au rang de questions subsidiaires, semble à portée de main. Voilà. C'est marrant, hein ? On sent que les médias, là, pensent que quelque part, Poutine a déjà gagné le sommet de demain. On verra si c'est aussi simple que ça, on verra. Faire des pronostics sur l'actu, c'est toujours dangereux. On verra ce qui va se passer. Le russe va donc s'employer à convaincre l'américain qu'il est de toute façon en train de gagner cette guerre, que sa posture relève de la pure générosité, la fameuse générosité de Poutine. S'il parvient à faire entériner ce fait accompli, ce sera un complet renversement d'alliance. Le stratège du Kremlin sait bien qu'il n'obtiendra pas si aisément autour d'une table la reddition de l'Ukraine, mais il peut convaincre son interlocuteur que Kiev et les Européens sont les véritables obstacles à son prix Nobel de la paix. Trump est pressé. Et il ne voit rien d'anormal à récompenser l'agresseur. Hein. Rappelons ces scènes surréalistes où Trump accuse Zelensky finalement d'être le bad guy dans cette histoire et d'avoir créé cette guerre. Trump est pressé, il ne voit rien d'anormal à récompenser l'agresseur. Va-t-il permettre à Poutine de triompher sur tous les fronts des deux ? On saura bientôt qui est le roi du deal. Incroyable. Pas mal ce petit édito là. Voilà, vous avez un article, effectivement, si vous voulez en savoir plus, page 2 dans le Figaro, sur les derniers progrès territoriaux de l'armée russe, hein, notamment dans le Donbass. Au prix de lourdes pertes, mais est-ce que Poutine s'en soucie ? Je vous lis. Mon père traîne beaucoup trop sur les réseaux sociaux, me dit Nevaï. Il se prend tous les éléments de propagande pro-russe. Il n'est pas le seul, hein. Quand je lis... Bref. Il tient des propos complètement ahurissants. J'ai beau discuter avec ça. Ça change rien. Je sais pas trop quoi faire de plus. Ton papa est dans une bulle informationnelle. Voilà. Hein, les algorithmes des réseaux sociaux qu'il consomme ont compris qu'un certain contenu semblait l'intéresser. Donc, du coup... lui renvoie en boucle ce même de contenu, ce qui vient renforcer du coup son analyse de la situation. Voilà, donc ça va être compliqué de l'en faire sortir. Voilà, parle-lui peut-être de bulles informationnelles, parle-lui d'algorithmes. Après, est-ce que c'est compliqué ce sujet, mais est-ce qu'une question d'actualité, même aussi importante que celle-ci, mérite qu'on crée de la tension au sein d'une famille. Mais faut-il peut-être rappeler que que l'Ukraine, c'est l'Ukraine, que l'Ukraine mérite de voir ses frontières respectées, que l'Ukraine, contrairement au wording de Poutine, n'est pas la Russie, et que n'a pas besoin d'être libérée, juste laissée tranquille, quoi. Et qu'après l'Ukraine, d'autres pays européens, notamment frontaliers, sont très inquiets des visées expansionnistes de la Russie de Poutine, quoi. Et Navalny me dit oui, c'est pour ça, je prends du recul sur la situation, je ne lui en veux pas trop, il est la cible d'une machine puissante, réseau, etc. Et j'essaie de m'en détacher un petit peu. Stromiller me dit, Nevaï, que Fabien Olicard a fait une vidéo très intéressante là-dessus sur les algorithmes, comment ils peuvent affecter l'opinion d'un individu, elle peut être intéressante à partager. Voilà, Léa me dit, mon mari est pareil, dans une bulle influencée par la propagande russe, il me montre tous les jours de fausses vidéos pensant que c'est vrai. Moi, j'ai que de la bouffe dans mes algos, me dit Nathan. Bah, t'as bien de la chance. Tu n'as pas plombé l'ambiance, c'est un vrai sujet intéressant. Trop de balavoine qui a un magnifique pseudo, j'entends ce que tu me dis. Notre ami nous dit, je suis un pro-ukrainien convaincu, mais pour le coup, je peux comprendre qu'on remette en question le discours, la morale occidentale sur le sujet, vu comment elle ne respecte pas le droit international en ce qui concerne Gaza. J'entends. Nicolas N nous dit, mais comment être sûr qu'on n'est pas nous-mêmes dans une bulle informationnelle? Vous êtes dans une bulle informationnelle. Nous le sommes tous. Vous qui consommez cette revue de presse, ceux qui consomment cette revue de presse régulièrement, vous êtes avec moi dans une bulle informationnelle. C'est-à-dire que, après, comme vous êtes des gens intelligents, vous allez réussir à en sortir. Mais le matin, j'ai fait le choix de lire certains journaux. Voilà. Les quotidiens nationaux, mais pas tous. Enfin, je lis pas la presse régionale, je lis pas la presse magazine. Je lis pas la presse internet par manque de temps. Donc déjà, c'est une bulle. Voilà. Moi, j'ai décidé, c'est mon choix éditorial, mais c'est mon droit, puisque c'est ma chaîne. Voilà. Mais transparent, j'ai créé une bulle qui est de lire les quotidiens nationaux, parce que je préfère lire les journaux que écouter la radio, regarder la télé. Voilà. C'est un choix. Mais c'est une bulle. En plus, moi, dans ces journaux, je choisis certains thèmes, en fonction de mes centres d'intérêt, parce que c'est ma chaîne. Voilà. Deuxième bulle. Voilà. Et en plus, sur ces thèmes, je choisis certains articles, parce que je les trouve plus intéressants que d'autres. Troisième bulle. Voilà. Et en plus, je suis le fruit d'une éducation, de valeurs, de l'endroit où je suis né. Je suis un occidental, je suis né en France, avec une certaine éducation, un certain parcours. Voilà. Et ça encore, c'est une autre bulle. Donc nous sommes dans une bulle. Voilà. Et tout ce que je dis ici doit être remis en question par vos esprits critiques. Les infos que je mets en avant, les articles que je mets en avant, les opinions que je mets en avant ne sont que le produit de mes filtres et de mes choix. Voilà. Donc nous sommes dans une bulle et c'est pour ça que ça ne me fait pas tilter quand beaucoup d'entre vous ne sont pas d'accord avec mes choix, du moment que c'est exprimé de façon à peu près correcte, quoi. Donc bien sûr. Mais en tout cas, j'essaie d'être transparent là-dessus, quoi. Samuel, c'est vrai que tu es le papa de Michou. Non, mais je suis le grand-père d'Elidia, par contre. Donc diversifiez vos sources, hein, informez-vous le plus largement possible, si vous en avez le temps, bien sûr. Voilà, allez consommer d'autres créateurs de contenu qui s'intéressent à l'info. Voilà, la meilleure façon de ne pas être coincé dans une bulle, c'est de s'informer auprès de différentes sources. Certains dans le chat me parlaient tout à l'heure de leurs parents qui s'informaient manifestement essentiellement sur Internet, essentiellement sur X ou que sais-je. Donc ça, c'est une forme de bulle. Bon, ben, il faut, voilà, l'idée, c'est de multiplier les sources. Alors moi, je ne vous parle que des journaux parce que c'est mon choix, mais bon, je consomme quand même beaucoup l'information sur Internet. Je vois aussi beaucoup d'autres informations, quoi. Voilà. Mais nous sommes dans une bulle, oui. Voilà. Mais j'essaie d'être transparent par rapport à ça, quoi. Une bulle assumée, quoi. Merci Technoal. Merci Elfing. Merci tous les deux. Alors, est-ce qu'on lit encore un article sur l'Ukraine ? Non, on va aller en Suisse. Je vous emmène en Suisse. Je vous emmène en Suisse. Mais, alors, idéalement, j'aurais bien voulu faire une revue de presse demain, mais je pars voir la famille en Franche-Comté. Donc, il n'y aura pas de revue de presse demain. En plus, je ne suis pas sûr que demain matin, on aura vraiment le recul et toutes les infos sur ce qui s'est passé. Non, demain, ce n'est pas possible, parce que le sommet est demain. Donc, no, demain, il n'y aura rien sur le sommet. Non, c'est dans la presse de samedi. C'est dans la presse du week-end, finalement, qu'on va avoir les premiers éléments. Ça veut dire que lundi matin, on aura une revue de presse ici. Et là, on va pouvoir revenir largement sur le sommet en Alaska, quoi. Donc, lundi, rendez-vous lundi pour la revue de presse. On aura un peu de recul, on aura un peu d'infos. Ce sera hyper intéressant de voir si, finalement, les journaux, les analystes, les éditorialistes se sont trompés ou pas sur ce qu'ils avaient anticipé. Ah oui, en plus, c'est férié demain à MMG, donc il n'y aura pas tous les journaux. Bien vu, bien vu. Bien vu, bien vu. Bien vu. En tout cas, merci d'être aussi nombreux, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bon, on va en Suisse ? Oh non, on va en Suisse. Je ne vais pas en Suisse, je vais en Franche-Comté. Quoique la Franche-Comté, c'est pas loin de la Suisse. Non, on va en Suisse. La Suisse, les Suisses qui sont un peu inquiets, même très inquiets, au vu de ces droits de douane gigantesques que Trump, encore lui, a décidé. Voilà, 39% de droits de douane supplémentaires pour l'économie suisse, alors que l'Union européenne n'a eu que 15%. 15% déjà dénoncé par tous les pays européens, par tous les partis politiques, quelle que soit leur couleur européen, par tous les médias d'ailleurs. 15%, vous rendez compte, on est vraiment des losers. Comment ça se fait qu'on n'ait pas gagné ce bras de fer avec Trump? Bon, bah, 15%, c'est pas terrible. Mais les Suisses, ils ont pris 39%. Pourquoi? Comment? Eh ben, on va en parler avec un article qui est dans L'Opinion ce matin. Un journal libéral très proche des entreprises, recueillant tout ce qui est éco, exportation, ça les intéresse pas mal. Je vous mets l'article. L'Opinion, ici. Tac. Tac. Pourquoi ça marche pas? Ah, ça marche. Ouais, 39% la Suisse. Très bonne blague de Itch TV. Voilà, puisque ici, on est assez bon client sur l'humour. Attention, les oreilles chastes, c'est une blague qui pique. 39% de droits de douane supplémentaires. Pour la Suisse, ça va encore, je cite, creuser le trou de Bâle. Bâle. En Suisse. 39%. Creuser le trou de Bâle. C'est un peu hardcore. C'est un peu hardcore. Mais il est bon de rire parfois. Pour s'enlever un petit peu du côté anxiogène de l'actualité. Ça valide, ça valide. Ça valide ? Ça valide ? Vous validez ? Il n'y a pas faute ? On met pas de carton là-dessus, hein ? Hein ? On l'a joué. On l'a joué. C'est drôle. Elle est bonne. Fab me dit, je suis suisse et vous me faites rire, vous racontez n'importe quoi. Ah, alors Fab, ça m'intéresse parce que j'aimerais l'avis des Suisses aussi. Fab, es-tu content de ces 39% de droits de douane sur ton économie? Ça m'intéresse. En tout cas, il y a des Suisses, et notamment les dirigeants de ce pays, notamment des dirigeants d'entreprises qui ne sont pas très heureux. Mais Fab, ça m'intéresse que toi, tu me donnes aussi ton avis. Lisons cet article. La Suisse se demande si sa neutralité peut survivre dans le monde actuel. Ça va bien au-delà des droits de douane. Le droit de douane imposé par Donald Trump entraîne une réorganisation des chaînes logistiques mondiales, redessine les cartes des investissements et met les vieilles alliances à l'épreuve en Suisse. Ils ont forcé le pays à réfléchir à son rôle sur la scène internationale. La fameuse neutralité suisse. Pendant des siècles, la Confédération a joué à merveille son rôle d'intermédiaire et de grande puissance diplomatique. La guerre de succession d'Espagne entre la France et le Saint-Empire romain germanique se termine en 1714, je me souviens très très bien, j'étais là, j'en parlais déjà sur Twitch à l'époque, par un traité signé dans la petite ville de Baden. En 1872, j'étais là encore toujours, un traité arbitral de Genève ordonne au Royaume-Uni de verser une compensation aux États-Unis. Ils sont forts les Suisses, hein ? Ils sont forts les Suisses. pour avoir fourni des navires de guerre aux confédérés pendant la guerre de sécession. Plus tard, le pays a joué un rôle dans la définition des droits de navigation en mer Noire et dans la résolution de conflits de l'Indochine à l'Algérie. Ils sont forts, les Suisses. Ils sont forts, les Suisses. Mais dans cette petite république alpine, à laquelle Washington a récemment infligé certains des droits de douane les plus élevés au monde, nombreux sont ceux qui se demandent si ce modèle séculaire de neutralité et d'exception suisse est encore adapté à un monde de transactions soumis au jeu des pouvoirs. En même temps, les transactions en Suisse, on connaît. Oui, j'ai dit la guerre de sécession. Oui, j'ai fourché. Exutoire. Personne n'avait entendu. Personne n'avait entendu. Donc, ça arrive. Personne n'avait entendu. C'est dingue, ça. Si ? Bon. Ça arrive. Ça arrive de fourcher. La guerre de sécession. Ça pourrait être autre chose. Lisons. Dans ce nouveau monde, la Suisse, où se trouve non seulement Davos, mais aussi les organisations multilatérales telles que l'Organisation mondiale du commerce. Davos, c'est en Suisse. L'OMC, c'est en Suisse. Le Comité international de la Croix-Rouge, c'est en Suisse. Symbole d'un mondialisme désormais passé de mode dans de nombreuses capitales. Le risque pour les autorités suisses comme pour les dirigeants et les observateurs est que ce modèle de singularité soit désormais défavorable à cette nation d'à peine 9 millions d'habitants. 9 millions d'habitants, la Suisse. De fait, la longue histoire de la démocratie à l'helvétique pourrait ne lui léguer que le célèbre coucou, pour paraphraser les mots de Larry Lime dans le film Le Troisième Homme d'Orson Welles. J'ai rien compris à cette phrase, je n'ai pas vu le film. Et le pays aurait le même poids dans la guerre commerciale que des pays en développement tels que le Laos, le Myanmar, moi je préfère dire Birmanie, si je puis me permettre, et la Syrie. C'est dur, ça. La Suisse qui aura le même poids dans la guerre commerciale que le Laos, que la Birmanie, que la Syrie. Par conséquent, les appels en faveur d'un rapprochement avec l'Union européenne, je ne savais pas qu'il y avait des Suisses qui voulaient rejoindre l'Union européenne, moi. Par conséquent, les appels en faveur d'un rapprochement avec l'Union européenne, qui a réussi à obtenir des conditions plus favorables avec Washington, se font de plus en plus pressantes. Certaines entreprises suisses, quant à elles, envisagent de délocaliser leur site de production vers de voisins plus grands. Oui, il y a eu un référendum en 92. Ok. C'est une minorité, me dit Cineout. D'accord. Merci Quentin. Merci Quentin. Merci 2D. Merci Marc Officiel. La Suisse ne peut plus le voyer entre les blocs comme elle le faisait auparavant, explique John Pult, qui est député et vice-président du Parti Socialiste Suisse. C'est fini, nous ne vivons plus dans ce monde-là, dit-il. Pour Adrian Steiner, qui est directeur général de Thermoplan, fabricant de machines à café qui fournit notamment Starbucks et McDonald's, la réussite de la Suisse s'explique car notre système fonctionnait bien dans l'ancien monde. Mais la politique a changé aujourd'hui, toutes les vieilles règles sont caduques. Poursuit-il, nous sommes trop petits pour jouer dans la cour des grands. Où il importe peu que l'on soit neutre ou non. La semaine dernière, l'imposition de droits de douane de 39%, malgré des mois de négociations, a été un coup de tonnerre pour la Suisse, quand même, hein, dont les États-Unis représentent le premier marché d'exportation pour ses produits. Les montres, le chocolat, les produits pharmaceutiques, les machines-outils. Les Suisses, ils font pas que des chocolats. Jeudi, la une du quotidien Blick était entièrement noire avec le chiffre 39%, en grandes lettres blanches, suivie par une journée noire pour notre pays. Les 39%... Fab me dit, les 39% vont toucher les Américains, c'est eux qui se tirent une balle dans le pied. Fab a complètement raison. Les consommateurs américains, voilà, vont être touchés de plein fouet par la hausse de certains produits. Voilà. Donc ils vont devoir ou s'en priver, les montres suisses, le chocolat suisse, les machines-outils suisses, etc., ou les payer plus cher. Bien sûr. L'économie suisse va être touchée et les consommateurs américains vont être touchés. Ça, c'est une des grandes inconnues de la guerre commerciale déclenchée par Trump, c'est que quelles vont être les conséquences pour l'économie américaine ? Positives ? Négatives ? Voilà. Pour l'économie, pour la croissance, pour le pouvoir d'achat des Américains, pour l'inflation. Voilà. Et ça, même si vous êtes super malin, à moins d'avoir une boule de cristal, on ne peut pas prédire ce qui va se passer dans 15 jours, 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans. Et ce n'est que l'avenir qui nous permettra de répondre à cette question. Est-ce que Trump a mené une guerre commerciale qui a profité au final aux Américains ou pas. Voilà. Si vous avez déjà la réponse à cette question, dont on a la réponse dans le futur, je dis bravo, Madame Irma. On peut avoir un avis, bien sûr, mais voilà, c'est sur le long terme que nous verrons les vrais effets, quoi. Alors, pourquoi Trump a pris cette décision ? La principale raison de cette décision, explique l'opinion, est que la Suisse a un des plus grands déficits commerciaux avec les États-Unis. C'est-à-dire que la Suisse exporte beaucoup plus aux États-Unis que les Américains n'exportent vers la Suisse. Et ça, Trump, il n'aime pas. Trump, ça le... Ah mince, c'est un live sérieux. Salut Lucas. J'adore. J'adore le commentaire de Lucas. On dit pas mal de bêtises, Lucas reste hein, aussi. Hein. Donc voilà, Trump, il déteste hein, quand un pays exporte vers les États-Unis beaucoup moins que l'inverse, quoi. 48 milliards de dollars entre janvier et juin. Ces derniers temps, ce déficit est encore creusé du fait de l'augmentation des importations d'or et de produits pharmaceutiques avant l'imposition des droits de douane. Analystes et responsables politiques ont rivalisé d'idées en Suisse pour apaiser Trump. Hein. On va t'acheter davantage de bœuf américain. On va t'acheter du gaz naturel liquéfié. On va t'acheter des avions de chasse F-35. Hein. On va même peut-être déménager le siège de la FIFA, la Fédération Internationale de Football. Hein. On va mettre aux États-Unis, on va mettre à Miami. Mais non. Voilà. Ça n'a pas suffi. Après l'échec d'une mission de dernière minute à Washington la semaine dernière, Karine Keller-Sutter, qui est la présidente de la Confédération Suisse, a expliqué qu'aucune solution rapide n'était dans les tuyaux. In the pipe. On ne peut pas dire combien de temps cela va durer, a-t-elle déclaré, ajoutant que son équipe allait continuer à négocier. En dernière instance, l'affaire est entre les mains du président américain. La situation est problématique pour les entreprises suisses, qui affirment ne pas pouvoir lutter étant donné que la France et l'Allemagne ne sont soumises qu'à 15% de droits. Eh oui, l'économie suisse, elle est aussi en concurrence avec les économies de l'Union européenne, notamment allemande et suisse, qui ne sont frappées, elles, que par 15% des droits de douane. Eh oui. Et donc les produits suisses à l'exportation vont devoir lutter avec des produits... le fameux chocolat français. Pardon. Qui seront moins chers. Swissmen, association industrielle, a qualifié de scénario d'horreur, ajoutant que les droits de douane pourraient entraîner des dizaines de milliers de suppressions d'emplois en Suisse. Oui, que 15%, c'est étrange, John, mais 15% par rapport à 39%. Attends, laisse-moi faire le calcul. Je crois que 39, c'est plus que 15. Alors, attends. Je suis pas sûr, mais vérifions cette information. Attends, je veux être sûr de moi. Alors, attends. 39. Moins 15. Oui, c'est ça. Ça fait 24 points de différence. Non, je confirme. C'est moins. Je voulais être sûr. Donc, Swissmen, association industrielle, estime que ces droits de douane pourraient entraîner des dizaines de milliers de suppressions d'emplois en Suisse. L'interprofession du gruyère. Eh oui, mesdames et messieurs. Qui représente 1600 exploitations produisant le fameux fromage gruyère. A déclaré que les ventes vers les États-Unis qui absorbent près du tiers des exportations suisses de gruyère allaient en partie s'effondrer. Ipsomed, fabricant de dispositifs médicaux, a annoncé le transfert d'une partie de sa production destinée au marché américain vers ses installations en Allemagne. Et accélération du projet de construction d'un site aux États-Unis. Voilà. Ça fait moins de travail pour les Suisses. Adrian Stanner a déclaré que Thermoplan envisageait elle aussi de délocaliser sa production. Soit nous perdons des contrats, soit nous déménageons l'activité. Alors, donc il y a les conséquences économiques et financières qui sont quand même évidentes. Hein. Et puis il y a aussi les conséquences peut-être sur la place de la Suisse dans ce qu'on appelle le concert des nations. Bien sûr, Maëlan, qu'on a vu le match du PSG. Bien sûr, on en parlera peut-être tout à l'heure pour vous faire plaisir. Merci Joli Cœur. Merci Quentin. Cette crise des droits de douane n'est pas la première à ébranler l'identité suisse, carrément. En 2008, les États-Unis ont promulgué une loi contraignant les banques helvétiques à transférer les informations sur les clients américains à l'IRS, le service des impôts américains, qui, dit-on, est redoutable. Un coup dur pour la politique du secret bancaire en vigueur depuis le 18e, lorsque Genève avait créé le délit, je me souviens très très bien à l'époque, au 18e siècle, le délit de divulgation des informations bancaires des aristocrates. Une suite de scandales bancaires, notamment la débâcle du Crédit Suisse en 2023, a secoué le pays ces dernières années. Prennent cher la Suisse, là. La politique de neutralité suisse, vieille de deux siècles, s'est également révélée difficile à défendre pendant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Sous la pression de ses voisins et de l'administration Biden, la Confédération a d'ailleurs repris les sanctions de l'Union européenne contre Moscou. C'est un leurre de croire que la neutralité protège de toutes les menaces contre la sécurité. Elle ne vaut que si les autres acceptent cette neutralité, commente Stéphanie Walter, qui est une professeure d'économie politique et de relations internationales à Zurich. Les droits de douane américains arrivent en plein débat sur un éventuel rapprochement entre la Suisse et l'Union européenne. Le pays n'est pas membre de l'Union et bien peu pensent qu'il le sera un jour. Ah, c'est la question que je me posais. Mais il a conclu quand même avec l'Union toute une série d'accords bilatéraux. Un nouveau traité qui étend l'accès de la Suisse au marché unique pourrait être soumis à une votation l'année prochaine. Ah ouais. Oui, c'est... Bon, je ne connais pas bien ce pays, la Suisse, moi. Mais c'est vrai que je serais surpris d'apprendre qu'une majorité des Suisses veulent rejoindre l'Union européenne. Vous sembliez me dire, les gens qui vivent en Suisse notamment, que oui, c'est plutôt une minorité de gens. Mais il y aura peut-être des rapprochements, quoi. La campagne est d'ores et déjà enflammée. Marcel Detting, président de l'Union démocratique du centre, parti de droite qui s'oppose au rapprochement avec l'UE, a publié récemment une vidéo dans laquelle il évoque un choix entre la liberté et la soumission. Dans cette vidéo, il brûle des pages du traité européen. C'est chaud, hein ? Et fait griller par-dessus un cervelas. Pardon. Embroché sur une hallebarde traditionnelle. Les analystes, quant à eux, estiment que la crise des droits de douane pourrait favoriser le camp pro-européen quand même. Tout d'un coup, le traité semble beaucoup plus attrayant qu'il y a deux semaines. Hans-Peter Portmann, le député libéral radical, centre-droit, a déclaré que si la Suisse ne pouvait pas adhérer à l'Union européenne, abandonner son modèle de démocratie directe, elle devait néanmoins réévaluer ses priorités géopolitiques. Conclusion de l'article. Un petit pays comme la Suisse risque de se retrouver écrasé, a-t-il expliqué. La question des droits de douane avec les États-Unis a ouvert les yeux à beaucoup de monde. Pas inintéressant. Notamment pour un vieux comme moi, qui connaît pas très très bien la Suisse. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Les Suisses, vous en pensez quoi? Il y a des Suisses ici. Voilà, du dodo, je pense qu'il vit en Suisse. Le premier problème, c'est la pénurie grave de logements en Suisse. Le prix des assurances, le financement de la 13e rente AVS, les retraites. Ah bah, comme nous aussi, on a le souci. Le problème d'export fera monter un peu le chômage, mais globalement, ça devrait aller. On trouvera une solution vu que c'est pour les entreprises, comme toujours. Ok. Merci, merci en tout cas pour ton commentaire. Je suis frontalier allemand, pas suisse, mais l'Allemagne, c'est une catastrophe aussi actuellement, me dit Michael. Le logement, c'est vraiment la cata dans tous les pays développés. Oui, Master Likin. Alors, moi qui aime plutôt bien les journaux que je lis là le matin, je trouve que les médias français ne parlent pas assez de la crise du logement. Ben, je trouve qu'il est anormal que une partie grandissante de la population en France, je fais une petite pause là sur le sujet, ait autant de difficultés à se loger, quoi. Le prix des loyers, le prix de l'acquisition, de l'accession à la propriété, les conditions demandées aujourd'hui pour se loger, hein, les niveaux de salaire, les cautions, mais la dégradation est permanente, quoi. Et ça fragilise une part de plus en plus importante de la population, quoi. Et manifestement, c'est le cas dans d'autres pays occidentaux, quoi. Là, il y a un vrai sujet. C'est un sujet du quotidien. C'est-à-dire, mettre un toit sur sa tête et sur celle de ceux qu'on aime, c'est quand même une des premières choses pour vivre à peu près dans un minimum de confort, quoi. Et les médias en parlent très très peu. Tu prépares ton programme pour 2027. Oui, Mozart. Moi, président de la République en 2027, puisque on a prévu de se présenter ici et on a prévu de gagner aussi, ce sera l'un de mes premiers chantiers. — Voilà, Anthozox Gaming, voilà, je suis en train d'essayer de faire construire, on a 4000 euros par mois avec ma compagne, vous travaillez tous les deux, on ne peut pas faire une maison avec trois chambres, mes parents, eux, ont construit avec 1800 euros par mois et ma mère était au chômage. Ça s'est vraiment dégradé, hein. Putain, regarde, mais parce que on pense surtout aux grandes villes. Mais il y a Clint, joli pseudo, hein, je pense que vous allez apprécier le pseudo, c'est Clint Fistfood. Non, Fistwood, c'est encore mieux. Je vis à Auch dans le Gers, même ici c'est difficile de trouver un logement. Comment expliquer que l'immobilier soit si désastreux? Bah parce que, pardon, mais les politiques qui sont succédées ne sont pas occupées sérieusement du sujet. Là, il faut une volonté. Il faut, si vous laissez faire le marché, c'est ce qui s'est passé ces dernières décennies dans notre pays, si vous laissez faire le marché, on arrive à cette solution et ça se dégrade. Donc à un moment, bah, c'est une responsabilité politique de changer les choses, quoi. Voilà. C'est là où la politique devient intéressante au sens noble du terme. C'est-à-dire comment à un moment une société, une communauté de gens décide de changer les règles du jeu, changer les lois pour que dans un pays comme la France, qui est quand même un des pays les plus riches au monde, ben, la question de l'accession au logement soit pas cet enfer, quoi. Hein? Salut Phoenix. Je vous lis. Bientôt il faut. J'aime bien le commentaire d'Albert. Albert Serker. Bientôt il faudra qu'on soit en couple de 4 pour accéder à un logement, hein, avec 4 salaires. Donc attendez, attends, le couple c'est 2, le trouple c'est 3, c'est quoi le couple de 4? Sam, le problème tient en majorité sur les mots Airbnb, me dit Despi. Ça fait partie du sujet, ça fait partie du sujet, oui. Oui, ça fait partie du sujet. Comment on dit un couple à 4? Le quadruple? Phoenix? Le quatuor? Ah, pas mal. Salut, c'est toi. Le couple, le... Oh, le... Oh, je valide Griffcam. Le couple, Quoupple. Un couple à quatre. Un couple. Oui, bah du coup, ça sonne pareil. Ah bah, vous êtes plusieurs à avoir la même idée. Le polyamour, c'est joli. Le couple au carré, c'est beau. Je valide. Le quadruple. Ok. Eh, dites-moi, les gars. Demain, vous accédez à la présidentielle. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour arranger la question du logement en France? Voilà, n'importe quoi me dit, j'avoue que Airbnb, moi je dis toujours RNB, moi, le vieux qui veut parler que de musique, fait partie du problème, mais ça n'est pas le seul. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? La question est complexe. Oui, neuf, mais essayons d'avancer. La multipropriété, me dit Vlad Jäger. Il faut plafonner les loyers, me dit Chris. Oui, mais si tu plafonnes les loyers, certains propriétaires ne vont plus investir dans l'immobilier, parce que ce ne sera pas tellement intéressant financièrement pour eux, et il y aura peut-être moins de construction. Mais ce à quoi tu vas me répondre, ben, ça va baisser le coût d'accession à la propriété, dans ce cas-là. Je vous lis. Alors certains estiment qu'il faut protéger les locataires et certains estiment, je vous l'ai lu dans le chat, au contraire qu'il faut libéraliser, c'est-à-dire au contraire enlever les contraintes sur les propriétaires. Hein? Je vois sur les expulsions des locataires qui payent pas le loyer, etc. C'est amusant parce que un problème met des solutions quasiment diamétralement opposées, quoi. Interdire les résidences secondaires qui ne sont occupées que 1 ou 2 mois dans l'année, me dit Janelle Autumn. Interdiction de la double propriété, me dit Aura Katana. Réquisition des logements vacants, me dit Poupouton. Nationalisation des crédits immobiliers avec garantie de l'État pour les taux à des prêts à taux zéro. Construire des tours triangles partout. Francis, comme tu y vas. Hein. Francis, comme tu y vas. Hein. Plus de télétravail et comme ça on transforme les bureaux en habitation, me dit la belle Méduse. Carrément, d'inoxyse. On nationalise le BTP et on fait de grands bâtiments sur les pôles emploi. Allez, bim! Est-ce qu'à l'époque, nos grands-parents immobiliers étaient un investissement? J'ai l'impression que l'effort était moins important quand même. Merci à Eastman DB. Merci Pimnet. Merci à tous les deux. Merci Tony. Merci Joli Cœur. Merci Romano. Répartition des richesses, on interdit les milliardaires et on prend tout au-delà de 500 millions. Ouf! J'étais limite. Un service public du logement, me dit Antoine. Que les appartements insalubres soient repris par l'État pour ne pas les laisser à l'abandon. Réhabiliter les maisons laissées à l'abandon, ça coûte moins cher que de construire. Je me régale avec Lucas. Arrêtez d'envoyer du matériel militaire aux autres pays. Je ne sais pas de quoi on parle, j'étais parti, me dis-tu. Bon, moi, président, hein, puisque on sait que c'est en train d'arriver, on sait qu'en 2027, il va y avoir des surprises. On lance la campagne dans pas longtemps. Moi, président, ma première décision, je le dis très officiellement, sera de créer. Roulement de tambour, suspense énorme. Une grande commission dont la mission sera de réfléchir au problème du mal logement en France. Comme on fait toujours. Voilà, la commission émettra 6 mois, 1 an à travailler, voire un peu plus. Comme ça, j'aurai un petit peu le temps de profiter avant qu'on me vire, parce qu'il y a un moment forcément où les gens qui auront voté pour moi vont se rendre compte qu'il y avait escroquerie, quoi. Voilà. Mais une petite commission de 6 mois, 1 an là, ah ben, là. Et quand on m'interrogera sur le sujet, je dis non, ça me tient, qu'est-ce que vous faites pour le logement? Eh bien, très bonne question, je vous remercie de me l'avoir posée, mais vous n'êtes pas sans savoir que j'ai lancé une grande commission peu après mon élection, qui est en train de réfléchir sur le sujet, en train de rencontrer tous les acteurs de ce problème multifactoriel. Voilà. Vous serez d'accord avec moi, en tant que journaliste, j'ai entendu les politiques, donc je sais parler comme eux. Vous serez d'accord avec moi pour dire que ce sujet ne peut pas, ne doit pas être pris à la légère. Hein, voilà. Il engage l'avenir des Français, des Françaises, voilà, et des futurs Français, des futures Françaises, de leurs enfants, et même de ceux qui n'existent pas encore, pour des générations. Donc pardon, monsieur ou madame, ça dépend qui t'interview, pardon, mais je ne veux pas me précipiter sur ce sujet d'importance. Voilà. Et ce dont je peux vous assurer, c'est que quand cette commission que j'ai nommée, et puis je fais des petites pauses comme ça. Cette commission que je vais nommer, quand elle va rendre ses conclusions, je peux vous assurer, hein, que je prendrai des décisions, que je saurai prendre des décisions pour améliorer la situation des Français qui, aujourd'hui, souffrent du mal logement dans notre pays. Là, je gagne 6 mois. Là. Je gagne 6 mois. Tranquillou. Tranquillou bilou. Enfin, voilà, je fais comme les autres, quoi. Ma main ne tremblera pas, exactement. Excellent. Hein? Est-ce que je suis pas prêt? Est-ce que je suis pas prêt? Est-ce que je suis pas prêt? Je suis prêt, non? J'ai l'impression d'entendre un discours politique calqué sur ceux des 40 dernières années. Bah oui, si, si, bah oui. On sait faire. Hein. J'adore. Bon, pardon, pardon pour cette pause sur l'immobilier, mais je trouve que vraiment il y a un problème sur le logement dans notre pays, quoi. Blague à part, pardon d'avoir un peu déconné là-dessus, mais c'était marrant. 11h46, on est bien, on va s'hydrater un petit peu, puis on va partir sur la canicule, les conséquences de la canicule sur l'économie. C'est dans le monde. Hop, let's go. Dans le monde, dans le monde. C'est la une du monde, regardez. Regardez-moi ça. La une du monde, dernière édition du monde. Canicule, des coûts durables pour l'économie. La vague de chaleur entamée le 8 août dans le sud-ouest. Vous avez chaud chez vous en ce moment-là? Se poursuit en France avec de nombreuses répercussions sur le monde du travail. Réacteur nucléaire à l'arrêt. Les méduses, mais pas seulement. Oui, vous avez chaud. Vous êtes où? Quelle température il fait? Chantier ralenti. Récolte perturbée. Salariés exténués. 42 degrés dans le Gard. Ça va en Bretagne. Oui, mais c'est. Du coup, c'est normal. La Bretagne. Déjà, vous avez. Hein? Hein, bon. Je 40 dans le Gard. Metz, 35 degrés. 32 Dijon. 48, t'es où? Centre de la France, 36. J'étais à un concert hier, on a souffert. Paris 24? Je crois que Paris, il fait pas très chaud Paris aujourd'hui. 32, Dijon, je meurs. Dans l'Est, Jura, 35 hier. 32 à Toulon. 45 à 7? Pop, pop, pop. 42 dans l'Aveyron hier? Ah, merci Lucas. Ah, en fait, Lucas, l'avantage du. Pardon de poser les communautés, mais. Lucas, le pancake du 33. L'avantage du chat Twitch, c'est que sur Twitch, j'ai accès à votre historique. Lucas, ça fait le pauvre une demi-heure qui me dit lis-moi, Samuel, lis mes messages. Et en fait, sur TikTok, je peux pas accéder à vos messages précédents, à votre historique. Alors que sur Twitch, il suffit que je clique sur le pseudo et j'ai des messages. Et quand Lucas me dit sur TikTok, lis mes messages, je ne peux pas accéder aux messages de Lucas avant. Alors que je peux le faire sur Twitch. Voilà. Bienvenue Lucas. 35 Strasbourg, 55 chez moi. Gotoman, tu inventes. Tu inventes, qu'est-ce que tu racontes? 37 dans l'Hérault, 40 à Lyon, 35 cet après-midi, 37 à Lille. Pop, 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 pop. Ok, donc ça a des conséquences sur l'économie. Une journée avec des températures supérieures à 30 degrés a un impact sur l'activité équivalent à celui d'une demi-journée de grève, selon une étude. Écoutez ça. Une journée avec des températures supérieures à 30 degrés a un impact sur l'activité dans un pays comme la France équivalent à celui d'une demi-journée de grève. Les chaleurs observées dans l'Hexagone en juin et en juillet avec 12 jours à plus de 32 degrés pourraient coûter 0,3% de PIB à la France. Eh oui, c'est énorme! Les aléas climatiques comme les canicules ont aussi des effets à long terme, après même la canicule, en réduisant notamment la consommation. Eh oui! Sarah, salut Parapet Silvercam, j'espère que tu vas bien. Merci Isman. Voilà, allons voir le papier. Les conséquences sur l'économie d'un pays comme la France en raison de la canicule. Pas de l'été là, oui, c'est non, vraiment de températures exceptionnelles et qui vont se multiplier, vous le savez. Il suffit de s'intéresser un tout petit peu aux chiffres sur le climat en France depuis de ces dernières décennies. Réacteurs nucléaires à l'arrêt, vous avez dû entendre parler. Chantier ralenti, salariés exténués, les fortes chaleurs fragilisent la productivité, la production et risquent d'amputer la croissance. Ici, ça va bien, le streamer donne tout, il a un petit ventilo sur la gueule ici, tout va bien. À Gravelines dans le Nord, 4 réacteurs nucléaires sont à l'arrêt depuis lundi 11 août. Dans le Nord, pourtant! Hein? Le Nord, il y a encore quelques jours, c'était les icebergs, c'était les ours polaires, c'était, d'après des articles que j'ai lus récemment, des mammouths qu'on a croisés encore, ces derniers mois, du côté de Roubaix, de Lille. Oui, les manchots, oui. Et bien maintenant, on arrête les centrales nucléaires. C'est incroyable. Dans un scénario semblant tout droit sorti d'un film de science-fiction, des méduses en très grand nombre se sont introduites dans les filtres de stations de pompage qui aspirent l'eau de mer pour refroidir la centrale. Hein ? C'est fou. Les méduses. Deux jours plus tôt, c'est le réacteur numéro 2 de la centrale de Bugey, dans l'Ain, qui a été mis à l'arrêt pour éviter de rejeter des eaux trop chaudes dans le Rhône, hein, pour préserver la faune et la flore. Parce que rejeter, c'est pas l'eau qui est trop chaude pour la centrale. Récemment, j'avais fait l'erreur, j'ai dit « Ah oui, la centrale elle s'est arrêtée parce que l'eau elle est trop chaude pour refroidir la centrale. » Et des gens qui connaissent un peu le sujet, heureusement, m'ont dit « Non, Samuel, t'es gentil, mais tu dis quand même pas mal de conneries. » Non, c'est pas l'eau qui est trop chaude pour refroidir la centrale, c'est juste que l'eau rejetée par la centrale, elle devient trop chaude pour l'écosystème, pour la faune et la flore. Donc c'est un peu encadré, quoi. Merci à ceux qui m'avaient donné l'info. Donc le monde le rappelle. Ces deux exemples mettent en lumière les conséquences du dérèglement climatique sur certains secteurs de l'économie, même si d'autres en profitent. Les cinémas, ça marche mieux quand il fait chaud. Les centres commerciaux, hein, climatisés. Les vendeurs de glace. De climatiseurs, de ventilateurs mobiles. Depuis vendredi dernier, la France comme l'Europe suffoque, obligeant l'industrie à s'adapter aux températures caniculaires. Le monde du travail a multiplié les mesures pour préserver la santé des salariés. Faut pas déconner, quand même. Hein. Mercredi, les trois quarts de l'Hexagone étaient placés en alerte, dont 5 départements en vigilance rouge, 68 en orange. Mardi, 42,9 degrés. Vous vous rendez compte? Presque 43 degrés. Enregistré à Saint-Laurent-du-Pape en Ardèche, 42,6 à Romans-sur-Isère dans la Drôme. C'est fou. C'est très chaud, quand même. Hein. Vers 9h, 9h30, Eyman. À peu près. La préfète du Rhône a suspendu tous les chantiers extérieurs. Dans le sud du Maine-et-Loire, la communauté d'agglomération de Cholet a déplacé les horaires de collecte des ordures en soirée, entre 19h et 3h du matin. Et voilà. À 2h du matin, t'as le camion poubelle qui passe sous ta fenêtre. Tu n'arrives pas à dormir parce qu'il fait chaud, tu réussis à t'endormir à un moment, et t'as le camion poubelle sous ta fenêtre. Eh ben oui! Parce qu'il faut penser aux éboueurs qui travaillent dans des conditions de fou. Eh oui! Ces mesures vont dans le sens du décret publié le 1er juin qui précise désormais les obligations des employeurs lors des épisodes de chaleur intense. C'est un petit peu encadré, tant mieux. Les conditions de travail doivent être ajustées. Les salariés doivent avoir suffisamment d'eau à disposition. Les locaux doivent être maintenus à une température adaptée. Pensez pour les employés, tiens, le monde en parle, dans les pressings là. Hein. Dans le secteur du bâtiment, les chantiers, quand les villes ne les interdisent pas par arrêté, débutent dès 6h et se terminent à 13h. On stocke les heures, on les récupère plus tard, explique Anthony Loda, patron d'une entreprise de gros œufs dans le Cher. En juin 2024, c'est pas très vieux, un décret a généralisé la possibilité pour les entreprises du BTP de placer leurs salariés en chômage intempérie lorsqu'il fait trop chaud, comme cela pouvait se faire les jours de gel. Alors, pour ceux qui disent « c'est l'été, il fait chaud, c'est normal », « oh, mais dans le passé, il a déjà fait chaud, qu'est-ce que vous nous racontez? C'est pas le changement climatique, vous racontez n'importe quoi. » Anna nous dit dans le chat à l'instant « 35 degrés le matin en 1976 ». Alors, le problème, Anna, c'est pas tant que effectivement il y ait du 35, plutôt du 42-43 en ce moment. C'est qu'en fait, le nombre de jours dans une année, merci John, c'est la fréquence, dans une année désormais, voilà, à ces températures, est infiniment supérieur à celui des années 2010, 2000, 90, 80, 70, 60. C'est le nombre de d'abord, c'est en valeur absolue les niveaux atteints, hein, puisque maintenant on tape des 42, des 43, donc ça parfois c'est des records absolus, et c'est surtout encore plus la fréquence, hein, de ces journées dans un été et dans une année. Voilà. Bon, ça, il suffit de se pencher sur les chiffres. Si vous n'êtes pas fâché avec les chiffres, ça se comprend en deux secondes, quoi. Merci, Bogdoga. J'ai l'impression que tu le répètes tous les jours. Mais oui, mais la couette, qu'on a tous les jours des tontons, des tatas qui débarquent dans le chat avec ce fameux argument du « Ah, mais en 1976, il a fait chaud, donc en fait, il n'y a pas de réchauffement climatique. » Donc, chaque jour, on est obligé de le répéter. Et ouais. Donc, pensez pour les salariés du BTP, bien sûr. Faire de l'étanchéité sur un toit, plier du zinc sont des tâches difficiles à réaliser par telle température. Les ouvriers ne sont pas les seuls concernés. Quelqu'un m'en parlait dans le chat tout à l'heure. Les agriculteurs, les travailleurs agricoles sont moins efficaces à cause de la chaleur insoutenable. Les salariés du tertiaire sont exténués quand ils ne peuvent pas bénéficier de bureaux climatisés. Tous les bureaux ne sont pas climatisés. Hein. Ou que leur logement est mal isolé. Hein. Parce qu'il n'y a pas que le bureau. Quand tu te reposes mal à la maison, quand tu dors mal à cause de la chaleur, tu es aussi moins efficace au travail, bien sûr. Économiquement, c'est presque mathématique, une canicule se traduit par des pertes de journées de travail, ce qui signifie autant de productivité et de production en cuisine, dans les restaurants, bien sûr, bien sûr. Une journée de chaleur extrême, c'est-à-dire à plus de 32 degrés, est l'équivalent d'une demi-journée de grève, résume ainsi une note d'Alliance Trade du 1er juillet. Alors, c'est une étude, c'est une estimation qui vient d'une étude britannique publiée en 2021. C'est une évaluation, bien sûr, hein. Voilà, Mix, je suis moins efficace sur Monster Hunter, mon farming sans raison. Mais oui, mais oui, mais oui, même dans les jeux vidéo, on est moins fort. Mais oui, c'est un scandale. Alors, il y a l'impact économique de court terme. On est impacté par la chaleur dans notre travail. Qui n'est cependant qu'un début. Contrairement à l'idée reçue, ça c'est un des aspects vraiment intéressants de cet article. Il ne s'agit pas d'une parenthèse qui se refermerait avec le retour des températures plus clémentes. La réduction de la production économique se prolonge et s'intensifie même dans le temps, dit un économiste qui s'appelle Miles Parker, qui renvoie à une étude de la Banque Centrale Européenne qui a calculé dans plein de pays européens les conséquences sur long terme des canicules, sécheresse, inondation entre 1995 et 2002. La conclusion est une perte régionale de 1,4 point de PIB 4 ans après une canicule, 2,8 points après une inondation, 3 points après une sécheresse. Les chercheurs l'expliquent, ce phénomène, en évoquant un cercle vicieux. La catastrophe climatique peut dans un premier temps réduire les récoltes, par exemple, ce qui va appauvrir la région. En France, par exemple, la canicule de 2003 a diminué la production de céréales de 21%. Dans un deuxième temps, les revenus des travailleurs locaux s'en ressentent, ce qui va diminuer la consommation dans la région et limiter les investissements. Donc, il y a un coût économique sur le coût, dans les médias, et des conséquences économiques ensuite. Par ailleurs, les entreprises voient leurs coûts augmenter, car elles doivent dépenser de l'argent pour s'adapter en urgence, avec par exemple des climatiseurs. Et ça, c'est une dépense, bien sûr. Je vous lis, amis du chat. Est-ce que tu comptes organiser des débats où nous pourrions discuter tous ensemble ? Eyman, c'est ce qu'on essaie de faire ici, mais alors par écrit, forcément, c'est forcément un peu frustrant. Eyman, je peux le comprendre, parce que moi j'ai le monopole de la parole. Blablabla, blablabla, blablabla. C'est facile pour moi de vous répondre et de défendre mes arguments alors que j'ai 3 heures pour le faire tous les jours. Alors que vous n'avez que quelques caractères pour essayer de faire entendre vos opinions et vos idées. C'est très difficile comme exercice, donc c'est totalement déséquilibré. Mais quant à vous donner la parole littéralement, par exemple, vous donner la même parole que moi, en Discord, en audio, d'une manière ou d'une autre. Vous êtes 331 viewers actuellement sur TikTok. Vous êtes 4119 sur Twitch. Donc on est sur 4500 personnes. Ça n'est pas possible. Ça n'est hélas matériellement pas possible, t'imagines. Si je ne prenais qu'un seul d'entre vous déjà, ça doublerait le temps de la revue de presse. Non, c'est compliqué. Voilà. En revanche, moi, élu président de la République... Hein, en 2027, je créerai une commission pour réfléchir au sujet. Parce que la France ne peut pas rester avec ce déficit démocratique qui fait que la parole n'est pas entendue. La parole n'est pas entendue. Nous ne sommes pas une vraie démocratie. Moi, élu en 2027, je créerai une commission qui réunira les avis les plus éclairés sur la question. Sociologues, économistes, chercheurs, syndicats, chefs d'entreprise, les forces vives de la nation, des citoyens bien sûr aussi. Et j'espère bien qu'à l'issue de ces travaux, eh bien, nous trouverons des solutions ensemble, hein, car nous sommes ensemble pour que enfin, pardon, pour qu'enfin, eh bien, nous réalisions ensemble, hein, je me permets d'insister, de le souligner, ce rêve d'une démocratie effective, réelle, que vous ayez la parole. Je m'y engage, je m'y engage. Les yeux dans les yeux. Je suis prêt, je suis prêt. Parce que c'est notre projet. Exactement. On va rire en 2027. Ils sont pas prêts. Les Français ne sont pas prêts pour ce qui va se passer. Tu bouffes à tous les râteliers. Exactement, Crésisco. Je bouffe à tous les râteliers. D'ailleurs, je viens bouffer chez toi tout à l'heure, Crésisco. Si tu peux m'envoyer en... Ne donne pas ton adresse dans le chat, hein. On serait trop nombreux. Mais n'hésite pas à m'envoyer en MP ton adresse, le digicode, tout ça. Enfin, voilà. Je suis pas gourmand, je suis assez omnivore. Un petit cordon bleu, là, avec des brocolis. Je mange pas trop de légumes en ce moment. Voilà. Pas de dessert, j'ai arrêté le sucre. Voilà. De l'eau fraîche. Ça m'ira bien. Et une petite économie. Une. C'est bon le cordon bleu. Merci beaucoup, Touga.
Tu bouffes déjà chez moi grâce aux raquettes du service public.
Merci, Billy. C'est la vraie voix de Billy. Hein. C'est, Billy parle vraiment avec cette voix-là. Pourquoi on dit bleu? Je ne sais pas, Cubinito. Pourquoi on dit cordon bleu? Je ne sais pas. Bah, un cordon bleu, c'est pas une expression? C'est pas quelqu'un qui sait bien faire la cuisine? C'est plutôt un truc comme ça, quoi. Ok, propos homophobe de Billy, instant dans le chat. Billy, tu es sur la corde raide. Hein. Voilà. Rafraîchis-toi, va te passer la tête sous l'eau parce que t'es à deux doigts du dérapage. Et pourquoi cordon? Je sais pas. Ah, ce sont les personnes qui ont fait le cordon bleu, qui avaient un cordon blanc sur leur tablier. C'était une décoration au XVIIe siècle. C'était une écharpe que les cuisiniers avaient, je crois. Ah, là, on apprend des choses. J'ai pas testé le nouveau Mafia Caltech de jeu, a l'air fou. D'accord, ok. Salut Blarodix. Ok. Ok. Salut Popiette. C'est bon les Popiettes. Salut La Réunion. Ça fait plaisir en vrai. Merci Kadoshi pour ton message, ça fait plaisir. Merci Lulu du Sud. Merci Ryan, merci Leglaya, merci Caltech 80. Vous êtes plusieurs à me dire dans les deux chats qu'à l'origine ça vient du XVIIe siècle et que ça désignait les chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit. Waouh, Henri III, vous êtes fort. Hein. Tiens, écoutez, Zama54 nous donne la réponse. Le terme cordon bleu apparaît en 1578, lorsque Henri III crée l'ordre du Saint-Esprit, le plus célèbre des ordres de chevalerie, dont l'insigne est le cordon bleu. Par la suite, un cordon bleu désigne un cuisinier dont les mérites égalent ceux des chevaliers d'Ancien Régime. Hé, hey, c'est pas beau ça? Et au fil du temps, ajoute Pierre Omaz, l'expression cordon bleu s'est étendue pour désigner toute personne excellente dans l'art culinaire,
comme moi,
par analogie avec l'excellence et le raffinement de ses chevaliers. Hé, hey, c'est beau. Hein. On parlait ainsi d'une cuisinière cordon bleu pour qualifier ses talents exceptionnels. Incroyable. Comment ça, merci ChatGPT? Ah, ok. Salut Jaja, dépêche-toi hein, parce que l'émission va pas durer 107 ans. Hein. Dépêche-toi. Alors, est-ce que j'ai encore une info pour vous? Oui, j'ai une info pour vous. J'ai un truc qui va nous rafraîchir. En ces temps de canicule, nous allons mettre la tête dans le frigo. Que dis-je? On va mettre la tête dans le congélo. Hein. On va parler de cryogénisation. Voilà. Mais après notre mort. Parce qu'il y a des gens, et notamment des Français, qui à leur mort se font cryogéniser, boum, dans le congélo. On enlève les cordons bleus qu'on avait mis au congélo pour les manger plus tard. On fait un peu de place, on enlève les crêpes Findus, les glaces qu'on a oubliées l'été dernier et on fait une place pour papy. Voilà. Et un jour, peut-être qu'on pourra le remettre. C'est incroyable. C'est page 16 dans le Figaro. Let's go. C'est insane, ça. Hop. Page 16. Boum. Je rêve d'être réanimé. Ces Français qui ont choisi de se faire cryogéniser. À leur mort, ils seront conservés dans des cuves à moins 196 degrés, avec l'espoir d'être réanimés dans le futur. Qu'est-ce que c'est que cette diablerie ? Qu'est-ce que c'est que cette diablerie ? Ah, si l'entreprise fait faillite, c'est une très bonne question, alias Enigma. Compliqué, ça. Mustang connaît bien le sujet. J'écris ce message depuis mon congèle de cryogénisation. Ça fait 17 ans que je suis gelé. Il fait froid à l'aide. C'est faux, Mustang. Car en fait, on cryogénise des gens morts. Donc, fake news. Alors, vous êtes plusieurs à me dire que Simon Puech a fait une vidéo très intéressante là-dessus. Pour 50 euros par mois, c'est cher. Tu peux être cryogénisé puis réveillé dans 300 ans. Mais attends. 50 euros par mois, fois 12 mois, fois 300. Ah ouais. Tu te réveilles et on te demande 180 000 balles. Sauf que, évidemment, entre-temps, l'abonnement a augmenté, hein, comme Netflix, tout ça. Voilà. Ah, c'est 50 ans par mois de vie. Tu penses que c'est pas pendant la mort ? T'es sûr ? Ouais, mais alors du coup, qui oblige les gars ? C'est pendant ta vie. Et plus t'es vieux, plus l'abonnement coûte cher. On va voir ça, on va lire. En janvier dernier, l'entrepreneur Anthony Bourbon, star de l'émission Qui veut être mon associé sur M6, stupéfiait son intervieweur du jour, Guillaume Play, un créateur du Média Légende, en lui avant avoir signé ainsi un contrat avec une start-up allemande, Tomorrow Biosastis. À sa mort, l'investisseur verra donc son corps récupéré par une équipe médicale dédiée. Je crois d'ailleurs qu'ils sont emmenés hors de France, parce que je crois que c'est pas légal en France, hein. Refroidi puis entreposé dans une immense cuve en Suisse à moins 196 degrés. C'est comme ça que les Suisses vont lutter contre les droits de douane de Trump. Hein. Ils vont stocker du vieux français dans les congélos. Ils sont forts. Ils sont très très forts. C'est sûr et certain que la technologie nous permettra de nous réveiller une sorte de micro-ondes. Le projet des Suisses, c'est de nous congeler à notre mort et après de nous mettre dans des micro-ondes géants pour nous remettre en circulation. Les Suisses, je ne sais pas si les Suisses sont toujours dans le chat, vous êtes très très forts. Vous êtes très très forts. Ils sont incroyables. GG les Suisses. Et après, tu finirais dans un robot que fait Elon Musk, poursuit l'homme d'affaires de 37 ans. Oh, c'est incroyable. T'es mort, on te congèle, on te passe au micro-ondes, on te met dans un robot après, let's go. Quoi. C'est fou, c'est fou. Mais il y a des gens qui le pensent et du coup qui s'abonnent à ce truc-là. Hein. Voilà. C'est un pari sur l'avenir finalement. C'est beau, je trouve. Hein. Un mois après cet entretien, le créateur de Fit annonçait que le club d'investisseurs Blast, qu'il a cofondé avec Samuel Gaze, avait injecté 1,5 million d'euros dans cette start-up. Start-up de quelle nationalité alors ? Allemande. Voilà. Anthony Bourbon, technophile convaincu, a mis un coup de projecteur sur cette technique aux allures de science-fiction. Oui, quand même, un petit peu, quoi. Le nom du film avec Louis de Funès ? Hibernatus, baby. Hibernatus. Excellent film avec Louis de Funès. La première cryopréservation sur un territoire de l'Union européenne ayant eu lieu en mars 2023, c'est assez récent quand même. Cette hypothétique solution semble plus que jamais à portée de main des Français. Le Figaro est allé à la rencontre de ceux qui ont franchi le pas entre envie futuriste, peur de la mort et désir d'éternel. Oh, j'ai pas envie de vivre éternellement, moi. On va s'ennuyer. Oh non. Est-ce que la vie n'a pas de... Est-ce que ce qui fait notamment l'intérêt de la vie, le sel de la vie, quand on a la chance d'avoir une vie qui est supportable, parfois compliquée, est-ce que c'est justement qu'elle est limitée dans le temps ? Je sais pas, non ? Hein, et que du coup, il faut qu'on essaie de faire des trucs dans le petit laps de temps qui nous est donné, et que c'est cette petite course qui crée quelque chose, quoi. Je sais pas. Bon, j'ai pas envie de vivre éternellement, moi. Moi, j'ai envie de... Oui, ou de revivre. Me réincarner. En rockstar. Comme ça, ce serait une vie courte. Bon, continuons l'article. Arrête de raconter des conneries, papy. Quand les Français notent leur satisfaction vis-à-vis de leur vie actuelle, le score est plutôt bon. Bon, 7,1 sur 10 en moyenne, d'après une étude de l'INSEE. Ok. Mais certains l'aiment tellement qu'ils en voudraient plusieurs vies. Tiens donc. C'est le cas d'Éric, psychiatre à l'assistance publique hôpitaux de Marseille. Je considère qu'il y a tellement de projets à mettre en place, de voyages à accomplir. Tout cela prend bien plus que 80 ou 90 ans. Confie cet homme de 50 ans. Lui, il voudrait avoir plusieurs vies. C'est marrant. Remarque, plusieurs vies, je pourrais peut-être passer Silver sur Valo. Hein, je pense qu'avec une dizaine de vies, vraiment en jouant non-stop, en faisant que ça, je pourrais peut-être passer Silver un jour. Passionné de science-fiction et d'extraterrestres, mais aussi d'astrophysique, de géopolitique, il rêverait, ce monsieur, de pouvoir passer un ou deux siècles à étudier. Personnage haut en couleur, fier de ses convictions, il découvre la thématique de la cryogénisation dans des œuvres comme Star Trek, comme Star Wars, comme Alien. La cryogénisation prend en effet racine dans la fiction, à la base. Dès 62, l'universitaire américain Robert Ettinger, fils d'immigrants juifs russes originaires de Détroit, publie La perspective de l'immortalité. Il y pose les grands principes d'une alternative à la mort via une conservation par le froid. Le physicien s'inspire d'une nouvelle d'un écrivain, Neil R. Davis, dans laquelle le corps d'un homme est envoyé en orbite terrestre à une température proche du zéro absolu, moins de 273 degrés, avant d'être retrouvé plusieurs millions d'années plus tard par une autre civilisation et réanimé, le fameux micro-ondes. L'ouvrage rencontre un vrai succès et fait naître outre-Atlantique un mouvement porteur d'espoir en faveur de cette technique prétendument révolutionnaire. 5 ans après, James Bedford, professeur de psychologie en Californie, est le premier humain à se faire cryogéniser. Concrètement, comment ça marche cette histoire? Lisons. Le jour de son décès, M. James Bedford, à 73 ans, son corps est placé dans un lit de glace, puis refroidi à l'aide de glace carbonique. Lit de glace, un peu comme les poissons, c'est le poissonnier. Vous voyez ? Il sera transféré quelques jours plus tard dans un caisson isolique métallique d'azote liquide à moins 196 degrés. Alors le procédé est un petit peu rudimentaire à l'époque. Le cylindre va connaître des fuites. Voilà. Et sera conservé chez un cryonicien amateur pendant plusieurs années. Voilà. Bien que dégradé, le corps de Bedford sera rapatrié dans les années 80 dans des locaux de ce qui est aujourd'hui la plus grosse entreprise du secteur qui s'appelle Alcor Life Extension. Extension. Fondé en 72, qui a cryogénisé à ce jour 248 patients et 1442 membres qui le seront dans le futur. On parle quand même d'un phénomène qui est extrêmement limité. La plus grosse boîte au monde qui fait ce truc-là, actuellement, elle a 248 personnes au frigo. Et elle en attend 1442. On est combien d'humains, nous, sur la Terre là? On est 8 milliards? C'est ça? On est 8 milliards. Hein, c'est ça à peu près. Voilà. Bon. 248 gars au frigo. C'est pas beaucoup. Hein. On est dans le Figaro, PHP Wing. C'est un titre dans le Figaro. C'est page, regarde, c'est page 16 aujourd'hui. Donc ça, c'était aux States d'abord. Et donc là, un Français, le Français que ça intéresse, Eric là, dit « J'ai regardé ça depuis longtemps, mais si vous souscrivez un contrat chez eux, le temps de transporter votre corps aux États-Unis, l'avion, les frontières, ça paraissait difficile à réaliser. » Bah ouais, ça se dégrade quoi. On te réveille au micro-ondes, mais tu ressembles plus à rien quoi. Puis la cryogénisation est arrivée en Europe, d'abord en Russie, puis l'Allemagne. Il y a 2 ans, donc Eric franchit le pas et signe un contrat avec la start-up créée par le docteur Émile Kenzura. Et Fernando Azevedo Pinheiro, qui est un diplômé en génie civil. Génie civil, c'est pas les ponts, les routes, tout ça, là? Non, j'ai une connerie. Génie civil, c'est pas les constructions? C'est ça? Ah ouais. Non, bah c'est rassurant. Ok. Ok, d'accord. On est bien. Voilà. Et donc, et ces gens disent pouvoir être réanimés dans le futur. Rajeuni. Ah, rajeuni. Ah ouais. On te... Waouh. Ah, c'est un micro-ondes qui rajeunit. Voilà. Et ensuite aller explorer d'autres planètes et systèmes solaires dans un vaisseau spatial. Bah oui.
Bah oui.
Son épouse a été convaincue, mais ses raisons sont un peu différentes. Elle espère que la cryogénisation permettra de soigner des civilisations entières. Ah oui, tu t'apprêtes. Ah oui, oui, ça je l'avais lu ça. Tu t'apprêtes à mourir d'une maladie qu'on ne sait pas guérir. On te cryogénise, on te réveille quand le traitement est prêt. Malinx, le lynx. Franco-québécoise Taya a, comme Eric et sa femme, signé un contrat de cryogénisation dès 2010 avec l'entreprise américaine Cryonics Institute, voilà, avant de découvrir Tomorrow Biosastis. C'est une directrice d'une école Montessori, elle est professeure de danse, c'est une amoureuse de la vie et elle souhaite profiter davantage dans le futur. En tant que présidente de la société Cryonics de France, association pour ceux qui s'intéressent à tout ça, elle dit connaître une vingtaine de personnes en France qui ont franchi le pas. On est peu nombreux aujourd'hui, mais elle estime que demain, plein de gens vont s'y intéresser. Alors, chez Tomorrow Biosastis aux États-Unis, les clients peuvent se faire cryogéniser tout le corps ou bien que le cerveau. Voilà. La première solution coûte environ 200 000 euros. Quand même, hein. Ah, bon, on n'était pas très très loin du chiffre que je donnais tout à l'heure. Ah, ah. Ou le cerveau, 60 000. Alien me dit, Jérém Star a fait une immersion dans une société de cryogénisation, intéressant à voir si jamais. Mais du coup, ils l'ont cryogénisé ? Ils l'ont mis au congèle ou il est juste allé voir ? Je ne savais pas. Ah, il a réservé sa place. Ok. Donc, tout le corps ou le cerveau, il est possible de tout verser d'un coup, 200 000 euros, bam, ou bien souscrire à une assurance vie adossée à la start-up. Voilà. Par exemple, le monsieur, là, il dit, moi, je paye 90 euros par mois parce que j'ai 50 ans, ma femme est plus jeune, et du coup, elle paye 60 euros, parce qu'elle va payer plus longtemps, a priori. À la fin du contrat, ils devront s'acquitter du montant restant, et s'ils décèdent avant, leur corps sera pris en charge quoi qu'il arrive. Voilà. Je n'ai pas d'enfant, j'en veux pas, donc quand je serai en fin de vie, je vendrai tout ce que j'ai pour payer le total. Je ne vais pas emporter ma voiture et mon appartement dans ma cuve de cryopréservation. Oui, ouais, non, parce qu'il faudra de très grands congèles quand même. Quand viendra la mort, le corps d'Eric, alors comment ça fonctionne ? Sera récupéré par une ambulance dépêchée par Tomorrow Biosastis, il faut aller très très vite. Hein. La pratique étant illégale en France, c'est bien ce que je disais. En France, tu ne peux pas mettre mamie au congèle. Hein. C'est interdit. Hein. Les gens qui pensent là, les gens qui disent « Ah ouais, ça m'intéresse la cryogénisation. J'ai vu des commentaires dans le chat en disant « Ouais, un congélo, c'est 400 euros. Moi, je vais le faire de façon artisanale, moi. Hein. Mamie, je l'aime bien, moi. Mamie, j'ai envie de la garder. J'ai envie de la repasser au micro-ondes dans 30 ans pour la ressusciter. Je vais la mettre au congèle. » C'est interdit. C'est illégal. La pratique étant illégale en France, l'entreprise Outre-Rhin fait passer la cryogénisation pour une donation du corps à la science. Le psychiatre en français donc, sera opéré à thorax ouvert. On lui injectera des produits cryoprotecteurs censés permettre à l'eau de se figer sans cristalliser, sans endommager les tissus. Voilà. La dépouille sera rapidement refroidie à moins 80 degrés avant d'être transportée vers la Suisse et entreposée dans des cuves à moins 180. C'est tout un process. Eric a été convaincu lors de la visite des locaux à Berlin. Je suis optimiste, l'hypothèse de ce projet est plausible. Je suis conscient qu'elle n'est pas certaine. Les gens qui font ça disent on n'est pas sûr que la science pourra nous ressusciter. Mais on tente le coup. On tente le coup. Taya, elle aussi cliente, admet sur le site de son association que cette cryonie, c'est le nom scientifique, reste hautement expérimentale, qu'elle ne permet rien de plus que d'accéder à une très faible probabilité, en fait ils achètent un espoir ces gens-là, de réanimation dans un futur sans doute très lointain. Bah, évidemment, il ne faut pas que quelqu'un débranche le congélo. Hein. C'est ce que confirme Jean-Marc Lemaitre, qui est un directeur de recherche à l'INSERM. Il dit, il n'y a rien de prouvé, c'est de la pure science-fiction, mais dans la réalité. Et l'expert, d'ajouter, il y a eu des essais de congélation des tissus, de cellules d'organes, on sait la complexité de leur maintien en survie, les dommages que ça peut faire. C'est très empirique quand même. Hein. Par exemple, le premier James Bedford à être cryogénisé, en fait, son cerveau avait été endommagé de manière irréversible par la congélation, qui avait formé des cristaux de glace. Donc, à supposer qu'on ait pu le ressusciter un jour, il n'aurait pas été très, 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 très en forme. Donc, les procédés ont évolué maintenant. C'est mieux. Mais l'efficacité des produits injectés dans le corps des défunts pour mieux conserver les tissus demeure incertaine. Voilà. Et le scientifique, de résumer, ce que vendent ces personnes, c'est simplement un espoir. Bon. Quand tu dis c'est très empirique, c'est pour pas dire c'est une énorme arnaque, pas vrai ? C'est un pari. Moi, je le ferai pas, mais... Peut-être que dans 200 ans, on rigolera des gens qui se moquaient aujourd'hui. Hein. Hein. Les gens qui veulent faire ça disent, alors, entre avoir une chance de vivre et zéro chance, le choix est vite fait. Est vite fait. Voilà. Jean-Marc Lemaître y voit une autre façon de mourir, la loi française n'autorisant que deux modes de sépulture, l'inhumation ou la crémation. Dans un cercueil, au bout de quelques mois, il y a une forte détérioration. Peut-être que ces personnes qui font ce choix peuvent trouver rassurant que leur corps reste intact. Il y a peut-être ça, en fait. En 2002, le Conseil d'État a en tout cas rejeté la demande d'une famille. Ils souhaitaient conserver le corps de leur mère dans un congélateur situé dans le sous-sol de leur maison. Quand je blaguais tout à l'heure, quand je disais « ne mettez pas grand-mère dans un congélateur après sa mort, c'est interdit », ça n'est pas une blague. Il y a une famille qui a demandé en 2002 au Conseil d'État s'il pouvait congeler la maman dans la cave, au congélo. Le Conseil d'État a dit non. Donc ce n'était pas une blague. Voilà. Bon, à suivre. Je vous lis un petit peu sur le sujet. Aloïs, merci beaucoup. J'ai déjà quelqu'un avec qui je travaille qui s'appelle Lucie, mais c'est adorable. Merci Aloïs. Samuel, faut animer Fort Boyard l'année prochaine. Non, Wars, j'ai pas envie. Blah. Merci, je préfère Twitch. C'était dans le roman de Barjeval, Ravage. Barjeval, non. Barjaval ? C'est Barjaval ? Non. René ? Comment il s'appelle ? Non. Barjavel ! Barjavel, défécateur. Petite coquille. Je voyais bien que Barjaval, ça me parlait pas. Barjavel, les anciens étaient congelés et puis le jour où il y a eu une panne de courant généralisée, c'était à Cata. Merci Sylvain, merci pour ton message. Merci Dol, merci. Merci Nico, merci Jossi. Mamie à côté de Meagundas. Bah oui, Eric. Comme ça, si elle se réveille, elle a de quoi prendre un petit dessert. Tes émissions, hein, quoi merci, merci beaucoup, Sylvain. Est-ce que tu le ferais, toi? Non, je pas du tout. Non, je ne suis pas tenté. Une vie me suffit. Une vie me suffit. Une vie me suffit. Comment ça, Samuel, pour rencontrer le père Foura? Samuel, pour remplacer le père Foura? Comment ça, Samuel, pour remplacer le père Foura? Super Fab. Comment ça, Samuel, pour remplacer le père Foura? Comment ça? Comment ça? Comment ça? Tu te fous de ma gueule! Merci Minerio qui dit « Je suis d'accord avec toi, Samuel, je trouve que ce qui donne son sens à la vie, c'est le fait qu'elle ait une fin. » Ouais, je pense aussi, ouais. Non, Clint Eastwood, je ne validerai pas cette blague. Le père fourreur, à la rigueur, je ne valide pas cette blague. Non, je ne valide pas. Comment on dit maintenant je ne contracte pas. Non. Salut Samuel, je vous vois bien au JT de TF1 de 13h. Non, user, non. Merci, non. Non. Merci, CryptoBoss. Bien sûr, Tiam, qu'on va se trouver aux The Event. On va tout donner, on va tout casser aux The Event. Rendez-vous sur ma chaîne Twitch, hein, c'est quoi, le 4, 5, 6 septembre, c'est le week-end, je ne sais plus. Vendredi, samedi, dimanche, nouvelle édition du The Event. On va essayer de collecter un maximum de dons pour les associations incroyables qui sont vraiment formidables. Bravo à Zerator et à son équipe pour le choix des assos qui sont topissimes. Avec plein d'amis sur place, on va collecter des énormes cagnottes pour de très belles associations et leur mission. Je vous révèle dans les prochains jours, mais... Donation goal, notamment 1 million d'euros, la candidature à la présidentielle. Samuel parle de la Croix-Rouge belge qui donne des bières contre ton sang. Je n'étais pas au courant, alias Enigma, mais maintenant que je le sais, je voudrais féliciter la Croix-Rouge belge pour cette initiative des bières contre ton sang. Nous validons ici. Salut, Annie. Je vais bien, j'espère que toi aussi. Bon bah vous ne répondez pas, ça ne doit pas être intéressant pour vous. Cook and Coach 8877, très beau drapeau d'ailleurs. Je n'ai pas vu ton message précédent, je m'en excuse, je ne vois pas tous les messages. Et sur TikTok, je ne peux pas revenir en arrière, je ne peux pas voir ton historique. Sorry. Alors sur Twitch, c'est possible. Salut, ça m'a-tu des abonnements à chaque journal ou utilises-tu une application qui centralise? Non, c'est un abonnement pour chaque journal. Vous avez le profil La Joie du Trésor pour parler des campagnes de France et Actu Légère. Je suis bien sur Twitch en vrai. Merci Iliac. Ça veut dire quoi cryogéniser? Ça veut dire mettre au congèle. Au congèle très très froid. Exactement. Bon.
Est-ce qu'on finirait, pardon,
par une info un petit peu plus légère? Qu'est-ce que vous en pensez? Une info un peu plus légère. Une info un peu plus légère. Une info mignonne. Une info. Enfin bon. Enfin, sauf pour le réalisateur du film et pour Cadmerad. Ouais. Où est-ce qu'on a vu ça? On a vu ça dans Le Parisien, je crois. Ouais. Hier, c'était les sorties ciné. Donc, on a parlé des sorties ciné hier. Voilà. Et personne ne m'a parlé de ce film hier. Bon, bravo au PSG. Hein. C'est page 22. Et personne n'a parlé de ce film. Et maintenant, je comprends pourquoi. Le film invisible. Le film invisible. Où vous voyez le millier de salles de cinéma qu'il y a en France. Ce film avec Cadmerad ne sort que dans 7 salles. Aucun cinéma, par exemple, en région parisienne. Papa Mobile, c'est le nom du film. C'est le film n'est pas sorti, que déjà c'était un bide. Voilà. Personne ne va pouvoir aller le voir, sauf les gens qui vont éventuellement passer devant ces 7 salles. Merci Kabia pour ton message, ça fait plaisir. Merci Chewbacca. Papa Mobile. Allô maman bobo, une star, Cadmerad, c'est pas n'importe qui quand même. Hein. Une date de sortie, mercredi, une bande-annonce même, on va essayer de la voir, mais l'arrivée pas de film, en tout cas une invisibilité quasi totale. Une histoire de cinéma comme il s'en produit parfois, mais jamais avec un tel cadeau à l'affiche. Yves Jéglé dans Le Parisien semble dire qu'un film aussi peu exposé avec un acteur comme Cadmerad, ça n'est quasiment jamais arrivé. Voilà, il ne sera pas vu, me dit Empires à propos de ce film Papa Mobile, joli. Tu as deux doigts de passer VIP. Papa Mobile aurait pu être une des comédies de l'été, du moins sur le papier. Cadmerad en pape, enlevé par un cartel mexicain lors d'une tournée en Papa Mobile et dont le chef des narcos découvre que ce pape, en fait, n'est qu'un imposteur. C'est plutôt rigolo. La suite, seuls des spectateurs d'Avignon dans le Vaucluse, de Bagnoles de l'Orne dans l'Orne, de Saverne dans le Bas-Rhin, de Douvaine et Évian-les-Bains en Haute-Savoie, de Romans-sur-Isère dans la Drôme, les uniques cinémas à le projeter pourront la raconter. Impossible de voir ce film, par exemple, en Île-de-France, ni dans aucune grande ville de l'Hexagone. Ah, il y a Mister Mesca qui vit à Saverne, tu vas pouvoir aller voir ce film. Ou pas. Dans le jargon, on appelle ça une sortie technique. Réduite à presque rien, une manière d'amortir les dégâts quand un producteur et un distributeur, face au produit fini, s'attendent à un fiasco total. En gros, le producteur et le distributeur trouve que le film est raté, est un nanar, et donc ils disent « Ok, ça nous a coûté de la thune, surtout le producteur, mais on va pas mettre de l'argent dans la distribution, parce que ça va être encore pire. » C'est raté, c'est une comédie pas drôle, selon la plupart de ceux qui l'ont vu, aïe. Ça arrive dans le métier, a confié le producteur du film Jean Bréa au Canard Enchaîné. Le réalisateur Sylvain Estibal, César quand même de la première meilleure œuvre en 2011 pour Le Cochon à Gaza, que nous avons contacté, nous renvoie son droit de réponse publié mercredi. Le réalisateur répond à son producteur. Ce dernier considère que c'est raté, pas drôle. D'autres qui ont vu le film l'ont trouvé hors norme, fou, amusant, et ne comprennent pas que sa sortie soit ainsi abordée. Le réalisateur, il trouve que son film, il est OK en vrai. Voilà. Le producteur dit c'est une bouse. Sylvain Estibal, le réalisateur, assume un film à budget réduit, 1,2 million d'euros, tourné en 24 jours au Mexique en 2023, avec un côté nanar revendiqué. Il révèle que Cadmerad a mis son salaire en participation, ce qui signifie que l'acteur ne touchera quasiment rien. Le pauvre. Il y a notre ami Dupont de Ligonnès dans le chat qui dit « Sam, je refais ma terrasse samedi, tu m'aides, j'ai besoin de main forte. » Mais t'avais pas déjà refait ta terrasse, Xavier ? Xavier, il avait déjà refait sa terrasse. Tu refais une terrasse ? Hey, tu ferais mieux de cryogéniser, hein ?
Pardon.
La distributrice Violaine Barbaroux, directrice générale de The Joker Film, nous a confié avoir acheté le film sur script en 2023, comme sur tous les longs métrages français, donc sur le script, hein, sur l'histoire. Un premier montage mi-2024 n'était pas satisfaisant, précise-t-elle, puis le montage définitif s'est révélé décevant, pas seulement pour nous, par l'auteur du scénario, du réalisateur, des acteurs, des promesses associées. Déçu, quoi. Cette dernière a alors proposé de chercher un autre distributeur. Présenté au marché du film à Cannes en mai, Papa Mobile n'a pas trouvé preneur. Personne n'a voulu distribuer ce film. Le Joker Film a assuré son partenariat en réalisant l'affiche, la bande-annonce, en le proposant à des exploitants dont les retours ont été largement négatifs. Les exploitants de salles n'ont pas été emballés non plus, quoi. Sherazade Belaïd, directrice du cinéma Vox à Avignon, projette, elle, le long-métrage. Elle a choisi de le montrer. Sans l'avoir vu avant, pour le fun, dit-elle, voilà. J'ai vu la tête de Cadmérade en blond peroxydé jouant le pape. C'est quoi ce truc lunaire ? Je me suis dit, tiens, dans la Cité des Papes, c'est marrant, je trouvais ça jouissif, impermissif. Ah oui, Avignon, Cité des Papes, un pape, ok. J'ai su que le film ne convenait plus à son distributeur, on verra bien. Pour ceux qui ne se situent pas près de ces salles, Papa Mobile devrait être diffusé sur la chaîne OCS dans quelques mois, puis sur la plateforme Amazon en 2026. On va pouvoir peut-être voir ce film. En 2026. Et là, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Là, on a envie de voir la bande-annonce. Bien sûr. Alors. Bande-annonce Papa Mobile. Oui, sur... Alors, je l'ai sur Allociné. Voilà. La note des téléspectateurs, c'est je vous montre. C'est 1,6. C'est pas beaucoup. Hein. 33 secondes la bande-annonce ? Ah oui, c'est vraiment... Même la bande-annonce, waouh, ils sont vraiment pas foulés, quoi. Ok. 33 secondes. Elle veut même pas charger la bande-annonce. Il n'y a rien qui va. Oh, elle est fraîche. C'est une pub. Bon, on passe la pub. 33 secondes la bande-annonce. Les mauvaises langues du chat disent que c'est les 33 meilleures secondes du film. La pub est plus longue, ouais. Ah non, putain. Ah, voilà. Alors, voilà, c'est bon, on y est. Alors, c'est parti. On monte le son. Vous êtes prêts ? Soyez bien concentrés, hein, parce qu'il y a 33 secondes. Hein. Vous êtes prêts ?
C'est une Papa Mobile que nous avons...
C'est pas assez fort. Il y a pas un truc de son, là ? Non, il est au max, d'accord. Vous êtes prêts ? 33 secondes.
C'est une Papa Mobile que nous avons voulu à l'image de votre pontificat. Simple, moderne, tout terrain. C'est... Un véhicule qui va loin.
C'est quoi ce pape ? Excusez-moi, c'est quoi ce film ?
C'est une Papa Mobile que nous avons voulu à l'image de votre pontificat. Simple, moderne, tout terrain. Un véhicule qui va loin. Un véhicule qui nous rassemble, qui nous unit, qui nous inspire, qui crée un effet waouh.
Qu'est-ce qu'un effet waouh ? Du pape.
Je ne sais pas comment est le film, je ne l'ai pas vu. Je ne vais pas donner mon avis sur un film que je n'ai pas vu. Mais franchement, la bande-annonce, ils ne sont pas foulés, quoi. Hein ? Oh la vache. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien, quoi. Le... Oh la vache. C'est fou, cette histoire, quand même. Incroyable. Bon, les amis, je vais vous abandonner. Eh ouais. Eh ouais. Je vais vous abandonner. Je vais aller faire du sport. Je vais aller faire du sport. Et oui, je vous abandonne. Voilà, à propos de sport, bravo au PSG. C'est la une du Parisien, c'est la une de l'équipe. Les amis, pour cette nouvelle coupe gagnée par les Parisiens. Bravo Paris. Je vous abandonne parce que d'abord, je vais aller courir. Faire un peu de sport. J'avais mal au dos depuis pas mal de jours, là. Et donc, j'ai un peu moins mal ce matin. Je vais aller courir. Le sport, c'est la santé. Voilà. Et puis, je pars cet après-midi en Franche-Comté. Manger donc de la saucisse de Morteau. De la cancoyote, du Mont d'Or, des bonnes choses. Surtout retrouver la famille, retrouver mes enfants adorés qui sont en vacances chez leur adorable grand-mère. Donc quelques jours en famille, je vais pouvoir bosser sur mon ordi aussi sur les dossiers, les petits trucs que je vous prépare sur ma chaîne dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc week-end studio quand même, mais voilà, famille, trop cool. Je pars cet après-midi. Donc, comme je vous disais au début du stream, si Gare de Lyon, cet après-midi, vous voyez un grand beau gosse d'un mètre 90 carré, le port altier, le regard déterminé, vif, avec un pas un peu félin, un peu sexy, bon, évidemment, ce sera pas moi. Hein, ce sera quelqu'un d'autre. Donc, je vous dis peut-être tout à l'heure, Gare de Lyon. Voilà, si vous me croisez, n'hésitez pas à faire un selfie. Moi, je suis toujours OK pour discuter avec les gens. Oui, les cheveux au vent. Merci, Iliac. Les cheveux au vent. Donc, pas de stream ce soir. Pas de stream demain matin, exceptionnellement. Pas de WordPress demain matin, je m'en excuse. Pas de stream vendredi soir. Pas de stream samedi. Mais je prends le train pour être avec vous dimanche soir pour un peu de gaming. Et on reprend lundi matin la revue de presse. Mais que pour deux jours parce qu'on a... eh bien, un tournage de questions pour un champion qui reprend, je crois, à partir de mercredi prochain pour 7 jours, mercredi, jeudi, vendredi, puis lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc, je serai en stream le soir, mais je ne pourrai pas être en stream le matin dans la revue de presse puisque je serai en question pour un champion. Rassurez-vous, voilà, comme la direction de France Télévisions voulait absolument soutenir mon activité sur Twitch et les choses formidables que nous construisons ici, nous n'avons plus que 2 semaines de tournage dans l'année. Celle-ci et une autre en mars-avril pour assurer les émissions de questions pour un champion le week-end. Donc merci beaucoup à France Télévisions de soutenir l'activité des créateurs de contenu, des créatrices de contenu et de le faire avec cet engagement, cette constance qui force le respect. Voilà. Donc une petite semaine d'absence le matin à venir là, mais ça ne durera pas très longtemps. Merci. Amis de TikTok, je vous salue maintenant, puisque je vais aller faire un raid sur Twitch, ça ne vous concerne pas. Le raid, c'est quand on envoie sa communauté sur une autre chaîne, on ne peut pas faire ça sur TikTok. Je vous remercie, merci d'être aussi nombreux, ça fait plaisir. N'hésitez pas à venir nous voir sur Twitch également. Et je vous dis à très bientôt, au plus tard, on se retrouve dimanche soir, je pense, ou lundi matin. Voilà, je cut le live sur TikTok, prenez soin de vous, soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous. Et je vous souhaite une belle fin de week-end, j'espère que vous avez profité. À très vite. On l'a coupé sur TikTok. C'est bon. On est entre nous sur Twitch. Bon week-end à vous, les amis. Voilà. Et puis, nous, on va faire un raid, bien sûr. On va aller voir qui est en live. Attendez, quelqu'un vient de me dire que... C'est intéressant, ça. Quelqu'un qu'on aime beaucoup ici.
Très, très cool.
Oh oui ! L'ami Gaspard. Gaspard TV, l'homme qui nous fait rêver en stream sur ses bateaux. Je crois qu'il avait fait une pause pendant un moment là. Celui qui stream en naviguant sur les mers et les océans du globe. Il a même streamé en plongée déjà. Il vient de revenir sur Twitch après une petite pause. Voilà, il est je vois Cap au Nord. Je sais pas où il est. Voilà. Ils sont deux. Je crois qu'il est. Il semble être avec sa compagne qui est aussi une créatrice de contenu. Hein. Voilà, donc on va le raid tout de suite, c'est parti. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir un univers quand on stream depuis son bateau. Gaspard le Goat. Voilà, c'est parti. C'est Talula, c'est ça, c'est Talula. Ils sont en Grèce, me dit-on. Ok, formidable. Je lance le raid, Merci de m'avoir suivi ce matin sur Twitch. On se retrouve dimanche soir pour du gaming, du Call of, du Valo, autre chose, on verra bien. Et puis on se retrouvera lundi matin et mardi matin pour la revue de presse. Et buvez de l'eau, hydratez-vous, faites attention aux plus fragiles, aux plus sensibles qui vous entourent en ces temps de canicule, les plus âgés, les plus jeunes aussi. Faites attention à tout ça. Et merci encore pour la force que vous donnez aux streamers et aux streameuses. Voilà. Moi, je vais les rebosser pour, sur le The Event. Là, faut que je bosse un peu. Merci encore. On va voir Gaspard. À très vite, bande de beaux gosses. Ciao, ciao.
Double down, that's actually a really good idea. That's actually... J'ai un moteur de combien de choses? 20 chevaux.